gets out, and away we go. Rosberg gets away cleanly. Ricciardo pulls out alongside Massa. They touch wheels as Ricciardo forces his way in. Hamilton's got the inside line into turn one. Rosberg will try and stay ahead. It's neck and neck with Mercedes. Already going on there is Sergio Perez and the Force India. Hamilton into the lead. Rosberg's lost another place as Sebastian Vettel comes through the Ferrari.
Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission du SAV de la F1, une émission d'après-course où nous allons revenir sur le Grand Prix de Malaisie. Je ne serai pas seul ce soir pour m'accompagner, puisque je serai accompagné de Bilo. Bonsoir Bilo.
Bonsoir, bonsoir à tous.
Et l'histoire d'amour continue ce week-end puisque nous allons encore retrouver présent physiquement dans la même salle, visiblement à moins d'un mètre, Buchor. Bonsoir Buchor.
Bonsoir.
Et Quentin. Bonsoir Quentin.
Bonsoir, mais ne vous lassez pas de cette histoire parce que ça risque de durer plus d'un week-end. Hein. Shinji, tu serais pas loin de nous rejoindre, donc fais attention.
C'est possible.
Ouais. Te défie pas, tu vas y avoir droit toi aussi.
Messieurs, rentrons dans le vif du sujet de ce Grand Prix de Malaisie avec la question rituelle. Qu'avez-vous pensé de ce Grand Prix?
Grand Prix plutôt intéressant, pas mal d'actions que ce soit sur la piste ou côté mécanique, même si certaines actions mécaniques se sont arrêtées un peu trop tôt à mon coup.
Alors,
il n'y aurait pas d'action mécanique sinon.
Oui.
Honnêtement, moi, je me suis retenu de mettre une. Vous verrez la note que j'ai attribuée, mais je me suis retenu de mettre plus parce que regarder ce Grand Prix en côté d'un fan d'Hamilton, ce rire, ça, ça m'a
C'est marrant. Ouais.
Oh, j'ai tellement de la peine pour eux ce soir.
C'est-à-dire qu'à ce moment-là du Grand Prix, j'étais à terre et Buchor était dans les airs, debout devant sa télé.
Ah, sur le coup, c'était un réflexe, j'ai bondi de joie. Je fais « Ouais !»
Mais Buchor, t'as pas craint qu'il y ait un accident avec ta télé, que de rage, sur le coup de l'émotion
Bizarrement, non. J'ai eu plutôt peur que de devoir appeler les urgences pour un arrêt cardiaque, mais...
Ouais.
Alors, il s'est passé plein de trucs, c'est vrai, et vous allez voir, les notes sont globalement bonnes, voire très bonnes. Ça a été un peu les montagnes russes, quand même. Il y a eu un début très fort, il y a eu une fin, rocambolesque. Il y a quand même eu un petit milieu, je sais pas vous, mais au moment où ils rentraient tous pour mettre des pneus durs, moi, je me disais, oh là là, on va se faire chier sur la deuxième partie de la course. Ils vont plus personne va rentrer au stand, on va se faire chier. Et puis bon, il est arrivé ce qui est arrivé.
Oui, mais moi, ce que
disons qu'il y avait.
Vas-y.
Disons qu'il y avait quand même une petite incertitude parce que quand Verstappen semblait ne plus devoir s'arrêter et on se disait qu'Hamilton devait s'arrêter. Donc on disait, on peut avoir quand même une petite lutte en perspective entre ces deux pilotes.
Voilà, c'est pour ça qu'il y a un petit creux. Puis après, on s'est rendu compte que les hards ne tiendraient pas forcément 40 000 tours, et puis bon, mais globalement de très bonnes notes, hein. Pour rappel, l'an dernier, le Grand Prix de Malaisie avait aussi eu une bonne moyenne, à 14,97, hein. Cette année, parmi les membres du SAV, Ben a mis un 14, Bilo a mis un 14,5, Buchor un 15,5, Fab un 14,5, Jackie a mis un 13, hein. Alors, il a mis un commentaire, ne fuyez pas. Certes, Ricardo a gagné, certes, Hamilton a perdu, certes, à 5 courses de la fin, le championnat a l'air d'encore se retourner, mais c'est la note du Grand Prix, pas la note du championnat. Je reste fidèle à mon critère de note, à savoir, y a-t-il eu de l'adversité entre les équipes? Mercedes, non, merci à Vettel. Ferrari n'était pas dans le match. Et encore moi grâce à Nico, c'est texto ce qui a marqué. Alors moi je peux pas après avec les T9 et tout ça, il y a des moments où je peux plus transcrire. Reste les Red Bull qui se sont battus pour ce qu'ils croyaient comme la deuxième place, qui fut en réalité la première. Mais bon, en dehors de cela, qu'est-ce qu'on s'ennuyait? Je priais pourtant pour une safety car réelle, vu les stratégies décalées qu'on a eues, cela n'est pas arrivé. C'est une mauvaise note à 13 quand même. Marco a mis un 15, Quentin 17, Scani a mis un 15. Je donne la note de moteur Mercedes sur 20. J'ajoute un point pour la bataille Red Bull, un autre pour la sanction sur Vettel, un autre pour la sanction sur Rosberg, ce qui nous donne salade de piston sur 20. J'ajoute un point pour la bonne utilisation des VSC, ce qui nous donne 15 sur 20. J'ai mis un 15, Victor a mis un 17, et vous, public, avez mis un 14,6. Donc globalement, oh, très bonne note. Et une moyenne globale pour ce Grand Prix de 15,01, donc une bonne moyenne dans la moyenne haute des Grands Prix cette année.
Je constate que le public a toujours des notes très similaires aux miennes. Je suis la voix du peuple, votez pour moi pour le fait marquant. Sinon,
c'est bien parce qu'on n'arrête pas de dire aux auditeurs qu'ils votent comme des pieds. Donc.
Non, alors, bizarrement, pour les notes de Grand Prix, elles sont plutôt justes.
Pour les notes de Grand Prix, ça va.
Si on regarde, c'est sur lesquelles t'es plus ou moins contre. Oui. Qu'on défend, oui, on ne comprend pas, mais...
Après, je pense que j'aurais peut-être pu mettre un point en plus. C'est vrai que si on regarde tous les Grands Prix de la saison, celui-là, il y a quand même quelques bagarres, dont une pour la victoire, mine de rien, entre les Red Bull. Il y a des rebondissements, il y a des stratégies différentes. Donc, si on met tout ça, ça fait un bon Grand Prix. Après, peut-être qu'il manquait encore, il manquait de quelque chose. Je pense une vraie lutte pour la victoire. Et des vrais dépassements. Là, il n'y a pas eu, hormis les 2-3 tours entre les Red Bull, ça manquait un peu de ça. On a été privé d'une lutte entre Mercedes qui pouvait être possible. Et j'ai envie de dire que l'usure des pneus n'a pas. Bon, bah, on s'en doutait, ce week-end, l'usure n'était pas forte. Donc, forcément, les stratégies, même si elles étaient variées, ne permettaient pas non plus des grosses différences.
Très bien, messieurs, sur cette introduction, je vous propose de passer au cœur de l'émission.
Hein ? Allez.
Allez.
Et bizarrement, je pense que...
Les chevaux et les courses, vous le savez, c'est ma grande passion. TRC Magazine, avec Omar Sharif, la passion de gagner. Les courses, avec le journal TRC Magazine, bien sûr.
Eh oui, moi aussi, j'ai récupéré les fichiers des jingles.
D'ailleurs, il faut noter, j'ai revu le Grand Prix et en fait, c'est la première fois depuis que Canal+ a repris la F1 que Julien Febvre commente un départ du Grand Prix. Parce qu'il l'a commenté cette fois, il n'a pas laissé le silence avant le premier virage.
Ah oui, c'est parce que Sainz nous a privé de ce moment de silence, puisqu'il a dit, il y a eu cette petite communication radio qu'on n'a pas trop compris, comme quoi son
oui, on pensait qu'il allait, coupé, ouais, ouais. qu'il allait rester sur la ligne. Ouais. Et messieurs, nous allons bien évidemment commencer par le quintet mot. Alors, à noter que vous avez été 66 à voter cette semaine. Hein. Encore merci à vous tous. Et avez-vous une idée de la personne qui est dernier du classement ou premier du quintet mot, du quintet oui. moins, pardon.
Moi, j'ai Vettel.
Ouais, petite idée.
Ouais. C'est Vettel, ouais.
Oui.
En effet, il a eu un vote négatif, un vote positif, pardon.
un pilote qui est dernier du quintet moins avec un vote négatif, c'est qu'un problème.
Et 60 votes négatifs. Certains disent de lui que c'est un fou, c'est un dingue. Bon, le problème, c'est que la personne qui l'a dit, voilà.
Il est encore plus terrible que lui.
En effet, c'est Vettel qui, entre guillemets, ne s'est pas raté, ou plutôt n'a pas raté Rosberg au premier virage.
C'est un rare de sa part.
C'est juste, Shinji, t'as relevé le nom de la personne qui a mis un point positif. C'est pas
je l'ai vu, mais comme d'habitude, je ne balance pas les noms. C'est les votes sont anonymes. Si la personne est sur le chat et qu'elle veut le dire, elle peut le dire, mais je ne balance pas.
Il faudra que j'aille voir. Je parie que c'est Dino encore.
Sûrement un fan d'Hamilton pour remercier Vettel.
Donc, voilà, tout s'est arrêté au premier virage. Sur le coup, en plus, c'est un peu parce qu'il y a Verstappen, on voit qu'il glisse un peu, on se dit putain, est-ce que c'est Verstappen qui a touché Vettel? Non, en fait, Verstappen, il a jamais touché Vettel. C'est Vettel comme un grand qui en broche Rosberg.
Mais le truc, c'est que ça se joue à pas beaucoup. On voit que c'est pas un gros contact. Il avait 30-40 cm de marge, Vettel. Je pense que ça passait. C'est le problème.
À noter qu'il aura 3 places de pénalité au Japon.
Oui, c'est, mais oui, c'est ça qui est mérité. Bizarre aussi. Ouf, c'est mérité. Ça enfin, c'est peut-être mérité, mais quand et encore, je suis pas de cette, vraiment de cet avis. C'est un premier virage, même s'il est très optimiste.
Ouais, mais quand tu déglingues la course de quelqu'un et que tu ne
oui,
peux
pas.
Oui, mais
on peut pas. On critique beaucoup de juger les conséquences et pas les actes. L'acte, il est pas. Après, en plus, c'est ça qui est dingue, c'est que dans le rapport de la FIA, ils disent c'est une petite erreur. En plus, le pilote reconnaît son erreur, même si c'est pas mentionné.
Oui.
Donc, un pilote qui fait des grosses manœuvres dangereuses et qui reconnaît même pas la dangerosité de ses actions peut passer à travers des pénalités. Et un pilote qui fait une petite erreur et qui en plus derrière reconnaît que c'est sa faute.
C'est vrai que non, mais... dès l'interview, il ne dit pas textuellement, mais on sent à son air qu'il sait très bien que c'est de sa faute. Et on a su, hein, si vous l'avez lu, qu'apparemment, il avait appelé Rosberg pour s'excuser. Voilà, parce qu'il sait que c'est de sa faute. Voilà.
Non, mais après, il ne faut pas tomber dans l'excès inverse. Que les pilotes fassent des manœuvres dangereuses et ne soient pas pénalisés parce qu'il n'y a pas eu de conséquences, ça, effectivement, je suis contre. Par contre, effectivement, même si c'est une petite erreur de Vettel, ça reste une faute de sa part. Et qui a des conséquences, de mauvaises conséquences sur un autre pilote, ça doit être sanctionné, ça, par contre. Même si, effectivement, il reconnaît son erreur, pas comme certains, n'est-ce pas, Verstappen. Mais ça doit être sanctionné. 3 places me paraît être un bon compromis.
Eh bien, moi, je vais être honnête, je trouve ça un peu sévère. C'est un premier virage au bout d'une longue ligne droite depuis la grille de départ, dans un virage qui se resserre, qui est un peu compliqué. Il a été un poil optimiste sur le freinage. Il a pas fait un gros strike, hein. C'est ça qu'il faut
voir
aussi. C'est pas, 3 places. Je veux dire, pour moi, ça relève plus de l'incident de course. Lui donner un avertissement, pour moi, aurait été tout à fait approprié. 3 places, je trouve ça un peu poussé, surtout alors qu'ils se disent qu'ils n'arrêtent pas de dire qu'ils veulent être un peu plus souples sur les pénalités pour les actions en cours, pour les laisser se battre, tout ça. Donc là, clairement, 3 places de pénalité, ils vont dire ben faites ultra gaffe, prenez pas le moindre risque au premier virage.
Mais c'est aussi le but, il faut faire attention au premier virage, la course ne se joue pas là. C'est ça le message, il est là. Ok, on peut être agressif, mais attention, il faut rester dans la maîtrise. C'est le message, il est le même depuis des années. Il faut faire attention pour les virages. C'est pas là qu'on joue sa course. Et donc,
Coup, tu vois, mais pour ça, je trouve que du coup, pour Spa, Verstappen aurait dû avoir 3 places de pénalité sur le.
Après, ce qui est aggravant, je vois qu'on dit sur chat, il a mis le leader du championnat en dernière position de la course.
Non, oui, mais même si ça n'avait pas été le leader du championnat, il envoie en l'air un pilote et le fait repartir dernier. Voilà, ça aurait été n'importe quoi, un pilote Red Bull ou voilà.
Non, mais voilà, on sait qu'aux yeux des commissaires, souvent ce genre de choses, voilà, oui, ça compte.
Après, par rapport à Spa, Verstappen au premier virage, c'était pas évident. On s'en souvient.
Mais du coup, c'est heureusement que c'est que Rosberg qui l'a envoyé en tête à queue. Ça aurait été Hamilton, il prenait 10 places.
Je sais pas.
Et Verstappen.
Qu'est-ce que ça aurait été s'il avait touché Verstappen?
Un grand prix de suspension.
Oui, non, mais voilà.
Après, l'audio de Verstappen après, alors que c'est vrai qu'il ne le touche pas. On peut croire, hein, franchement, sur le coup, sur le moment. Parce qu'on se dit, oh là là, il nous a encore fait un truc, mais non.
On a la caméra embarquée de Ricardo pour comprendre après ce qui s'est passé. Parce que...
Mais voilà, encore une fois, j'aurais été pour qu'il y ait des sanctions avant pour d'autres types de manœuvres par d'autres pilotes. Là, je pense que c'est raisonnable, ce n'est que 3 places. C'est pas ça qui...
Oui, c'est pas ça qui changera l'avenir de Ferrari ou de Vettel au championnat.
Oui, non, mais sans parler du championnat, 3 places, ça va, ça ne peut se rattraper en un départ. S'il n'y a pas de crash.
Bon. Après, Vettel est quand même loin d'être coutumier du fait, quoi.
Non, voilà, bien sûr, en plus, voilà, ce qui est bien, c'est qu'il reconnaît tout de suite, il s'excuse tout de suite. Il n'y a pas de. Enfin, c'est quand même flagrant par rapport à, encore une fois, Verstappen qui fait d'autres manœuvres et qui rejette la faute sur.
Il y a quelqu'un qui en a fait la remarque sur le chat. Il n'est pas un peu décevant quand même Vettel depuis quelques grands prix,
non.
Sans forcément avoir mauvais résultats que cette semaine.
Je suis pas d'accord parce qu'en fait on se base trop sur les résultats, mais il faut pas oublier qu'à Singapour il y a 2 semaines il fait une superbe course. Qu'à Monza il fait le podium,
oui.
Donc il devance son coéquipier toute la course. En Belgique, il fait une très bonne remontée. Après, je sais plus en Allemagne et Hongrie comment c'était, mais c'était. Enfin, j'ai pas l'impression. Je trouve que c'est aussi un concours de circonstances. Effectivement, à Singapour, il a un problème technique, donc forcément, c'est difficile d'obtenir un bon résultat. Non, je trouve que c'est qu'il a fait une, deux ou trois erreurs cette saison, mais que bon, globalement, ça reste et qu'il a eu beaucoup de problèmes, que ce soit technique ou se faire accrocher par quelqu'un, par exemple en Russie.
Ensuite, dans le quintet moins, il n'a même pas eu la chance d'avoir un petit vote positif. Il n'a eu que 29 votes négatifs. C'est Dani Rivett. C'est un sacré gap, en effet.
Oui, alors lui, il a pas eu de 4 titres de champion du monde. Et de notre côté, 4 titres ne ramènent qu'un point dans ce cas-là. Donc, ça va. Par contre, il n'a que 29 points négatifs. Mais bon, pas de surprise de ce côté-là non plus. Hein. Je ne sais même plus comment il finit.
14e.
Course complètement, enfin week-end globalement complètement transparent. Bon, les Toro Rosso ont fait un week-end.
Il avait quand même la satisfaction de partir 15e devant son coéquipier.
Oui, c'est vrai.
Vous remarquerez qu'en partant 15e avec le nombre d'abandons qu'il y a eu, il ne gagne qu'une place. Hein.
Non, mais il est. Alors, je sais plus si c'est victime ou fautif au premier virage parce qu'il s'arrête au stand au premier tour. Il s'est passé quoi? J'ai pas vu ce qui s'était passé.
C'est pas lui qui harponne l'arrière de Magnussen?
Qui lui-même harponne une voiture devant.
Il vient arracher la moitié du diffuseur de la Renault devant lui.
Oui, mais là, Kiat, il était pour rien parce qu'en fait,
l'entonnoir.
Ouais, la Renault tape la voiture qui est devant elle, donc elle s'arrête ralentit plutôt brutalement. Et Kiat derrière, il est à 30 cm du diffuseur de Magnussen, il peut rien faire, quoi. Hein.
Ouais. Après, on l'a pas vu, quoi. Et bon, la Toro Rosso effectivement était pas très bonne ce week-end.
Après, dans les longues lignes droites malaises et puis les virages rapides. Enfin voilà, on le dit depuis plusieurs Grands Prix, mais là encore, voilà, c'est en plus une configuration de circuit qui peut pas les aider de toute façon.
Oui.
Dès qu'il y aura un circuit un temps soit peu rapide. De toute façon, d'ici la fin de l'année...
Il y a beaucoup de circuits quand même assez rapides, hein.
Ah oui. Il y a Austin et Abu Dhabi où c'est moyen, mais c'est pas non plus lent, quoi.
Rien d'autre à rajouter sur le russe?
Non.
Alors, passons au troisième du quintet moins. Il a pas passé non plus un très bon Grand Prix, c'est Felipe Massa avec moins 21.
Non, je trouve que c'est sévère.
Massa, 13e. Bah, allez, Williams.
Mais attends, Massa, il a couru le Grand Prix, je l'ai pas vu.
Non, mais déjà, il a l'accélérateur qui casse avant le départ. Donc, du coup, il part des stands. Après, il doit s'arrêter au premier tour pour je sais pas quel problème. Et il doit s'arrêter 5 tours après pour un autre problème. Donc, sa course est ruinée, quoi. Il peut pas faire grand chose.
Ça, le coup de l'accélérateur, c'est quand même horrible, quoi. Ouais. Bon, remarque, valait mieux que ça y arrive pour partir au tour de formation qu'au moment du départ.
Ça aurait été marrant au moment du départ.
Oula. Help, help.
Il serait fait rentrer dedans par un autre. Il y aurait eu un drapeau jaune avant le premier virage, du coup il n'y aurait pas eu d'accrochage. Non, mais pas grand chose à dire, il peut pas faire grand chose.
Parce qu'à la passion suivant, ne tardons pas. Et avec moins 19, si je vous dis problème de frein.
Il est français.
Ça dépend selon certains.
Oui, apparemment ce week-end il devait être plutôt suisse.
Romain Grosjean qui a encore une fois eu des problèmes de frein arrière.
Alors sur ce coup là c'était quand même plus évident que d'habitude, puisque là clairement on a vu le frein exploser.
Oui.
Après, à savoir si c'est une faiblesse du disque ou si c'est le disque explosé parce qu'il a des problèmes d'électronique comme ça dit carrière, ça reste à déterminer. Mais
les moins 19 sont quand même sévères parce que il est victime, il devance Gutiérrez beaucoup en qualification, mais il garde une place, enfin il profite de il profite du premier virage pour gagner quelques places et après il est juste victime de ce qui lui arrive. Donc pas...
Il fait que 7 tours, hein, donc on peut pas dire qu'on ait vu grand chose.
Il n'a pas vu grand chose, je crois. Que c'est...
Avant son abandon.
Il est 10e au moment de l'abandon.
Ouais, ce qui est plutôt pas mal, quoi. Donc.
Oui, c'est dommage parce que j'aurais bien voulu voir ce qu'aurait donné la Haas face McLaren, Orsinga.
Sur la durée,
ça aurait peut-être être un peu compliqué, mais oui, effectivement, il y avait peut-être possibilité de suivre.
Mais après, il était déjà dépassé par Alonso au moment de la rupture de frein, donc c'est peut-être ça aussi qui a joué. Mais parce qu'il s'est fait dépasser par une McLaren, il perd 19 points, aucun témoin.
Oui, quand on voit la forme des McLaren ce week-end.
Ouais.
J'espère surtout que les points négatifs sanctionnent ces problèmes de frein plus que le pilotage de Grosjean, qui, à mon avis, ne souffre pas de critiques.
Comme je t'ai dit, sur 7 tours, on peut, voilà,
on
c'est
peut pas trop juger, quoi. Surtout que, comme dit, il avait réussi un bon départ, il était dans le top 10. Alors, bien sûr, il a pas pu résister à Rosberg, qui venait de le doubler, je crois.
Non.
Ouais, mais bon.
Ah non, Rosberg était encore loin.
Stallone. Ouais. Alors qu'il devait être sur des stratégies de pneus différentes, donc peut-être que c'est normal qu'Alonso l'ait doublé, je me souviens plus. Donc voilà, quoi, il y a pas un peu rude comme note, je trouve.
Eh bien, dans ce cas-là, passons au cinquième du quintet moins, qui a fait un score de moins 16. Et quand il n'y a pas de problème à l'arrière de la Haas, il y a des problèmes à l'avant de la Haas, c'est Gutiérrez.
Impressionnant, cette rupture, hein.
Oui, parce que habituellement ça se décroche, là on a l'impression que vraiment le truc a cassé, quoi.
Mais moi j'ai l'impression que c'est la jante qui a cassé, carrément.
Mais en fait je pense que c'est plutôt quand la jante s'est décrochée que l'écope de frein a cassé, et c'est ça qu'on voit, puisque le milieu de la jante c'est plus l'écope de frein qui se détache et qui casse plutôt que... Mais c'est la conséquence de cette
route. Ils ont été pénalisés de 5 000 $, je crois, pour ce qu'ils estiment que voilà, ils l'ont pas renvoyé dans les bonnes conditions de sécurité.
Alors, c'est là où on pose la question. Je me souviens plus, mais c'est combien avait écopé Renault en 2009 en Hongrie avec Alonso ou d'autres. C'est pas ça. Il me semble que c'était 50 000, donc si c'était le cas, il y a quand même une...
Oui, mais c'est les soldes. À la FIA, en ce moment, c'est les soldes.
C'est les soldes.
C'est les soldes d'automne.
Alors, Alonso, Renault...
Non, ce qui est marrant, c'est quand tu vois ça, et pour essayer de faire un parallèle, et les pénalités qu'a pris Ocon pour les excès de vitesse dans les stands.
Oui.
J'aimerais savoir de quoi. J'aurais aimé connaître la vitesse à laquelle il était dans les stands pour savoir si c'était un gros excès ou si c'était à coup de dizaines de kilomètres heure. Parce que, à mon avis, et c'est là où je me dis, je pense qu'il y a une disproportion qui est quand même énorme et injuste.
Oui. Après, enfin, ça reste 5 secondes de pénalité. Je trouve que ça va. C'est pas, sur une course, c'est pas énorme. En sachant que le pilote prend aussi peut-être un risque à chaque fois d'enclencher le limiteur trop tard.
Sauf que Ocon, vu que c'est quand même répété, je pense que c'était plus un problème de limiteur mal réglé que...
Alors, on en reparlera, mais Ocon, j'ai regardé les déclarations de Manor, il ne parle à aucun moment d'un problème de limiteur.
Oui.
Jamais. Alors qu'il pourrait dire, oui, bah, il y a un problème de limiteur, c'est pour ça que deux fois, jamais il n'en parle.
Ah, mais après, c'est peut-être Ocon qui a merdé deux fois.
C'est peut-être Ocon qui a merdé, mais bon.
Ocon, première fois à 82,4 km/h et la deuxième fois à 82,1 km/h.
Au lieu de 80.
80, ouais.
Oui, non, mais...
Après, je sais pas, tout ce que je dis, c'est que dans les déclarations d'après-course que j'ai regardé, ils ne disent rien là-dessus.
Oui, je suis d'accord avec toi, si c'était un problème de limiteur, ça aurait été dans le
Il se gênerait pas pour le dire, quoi.
Généralement, quand c'est vraiment un problème, une faute de leur part, ils dédouanent rapidement les pilotes.
Pour revenir sur les Haas, je pense qu'on aura l'occasion de revenir sur Ocon s'il y a des choses à ajouter, mais pour revenir sur Haas, il y a sur le chat, on nous dit, j'ai voté quintet moins pour Grosjean et Gutiérrez. C'est Le Monde et Stone qui nous dit ça, pour sanctionner le week-end de Haas globalement. Et sur Grosjean, on nous souligne que c'est aussi l'attitude de Grosjean. Je pense que c'est surtout les communications radio qui sont...
Oui, c'est vrai que les communications de Grosjean sont pas à son avantage.
Après, là, on peut difficilement lui donner tort sur cette course.
Oui.
Le mec qui a le frein casse, quoi. Et s'il a ce problème-là tout le week-end, plus le week-end de Singapour, où on a vu que sa voiture avait quand même pas mal de soucis. Je suis d'accord que Grosjean se plaint souvent. Après, prenez un autre pilote et mettez-y les mêmes problèmes techniques, je suis pas sûr qu'il y fasse un grand sourire. Hein.
Oui, parce que le truc, c'est qu'on ne sait pas à quel point ces problèmes sont graves et récurrents. Je pense que aussi, peut-être que ces problèmes de frein, on n'a qu'une partie visible de l'iceberg.
Ouais.
Et c'est pour ça que moi, Grosjean, je le pénalise pas forcément sur ses communications radio, parce que j'ai l'impression que, bon, on se souvient tous de la dernière année qu'il a fait chez Renault, qui était absolument catastrophique, chez Lotus, non, l'avant-dernière année chez Lotus.
La première.
Non,
l'avant-dernière, c'est 2014.
Il y a deux ans, où vraiment, il a enchaîné merde sur merde, en plus, il a laissé son volant le vendredi matin. Où je le trouvais pas très, il restait vraiment positif. D'ailleurs, on le saluait beaucoup pour sa communication. Il restait positif, ça. Donc, même, on sait que quand il y a des problèmes, mais qui sont différents, il arrive à prendre sur lui et tout. Là, c'est vraiment c'est son point, le point super important pour son pilotage. Il est très sensible au freinage, on le sait. Et c'est systématique. Et je pense qu'on ne sait pas tout et que, voilà, je me dis, il doit y avoir quand même une bonne raison pour que, franchement, il parle comme ça, quoi. Ça, c'est parce que je me dis, il y a quelque chose.
Le voit en plus sur les deux dernières courses, c'est flagrant, quoi. On voit qu'il râle pas pour rien. Donc, mais effectivement, le fait qu'un problème se répète, ça veut dire que l'écurie n'arrive pas à corriger ce souci. Donc, évidemment, il y a cette impression où ça stagne un peu. Alors que si c'était des problèmes différents, ça aurait été plus logique pour une écurie, étant donné en plus que c'est une écurie novice, qu'elle accumule des problèmes différents, alors que là, effectivement, elle accumule plus un seul problème.
Elle est novice, mais le matériel qu'ils ont est pas...
Oui, non, mais...
il est éprouvé quand même.
Bien sûr, mais ça reste une équipe qui doit monter, ça reste des mécaniciens qui doivent monter ces pièces, etc. Il peut y avoir des défaillances dans ce sens-là aussi.
Pour revenir sur la pénalité de Gutiérrez, sur la forme de la pénalité, je sais pas ce que vous en pensez personnellement.
Je trouve que c'est pas assez sévère. Dans mes souvenirs, c'était beaucoup plus que ça lorsque différents cas étaient arrivés. Ça reste mieux qu'une non-sanction qu'ont eu.
Honnêtement...
qu'elle n'a pas eu Ferrari à deux reprises l'année dernière.
Non, je vais être honnête, je préfère à la limite qu'il file pas de sanction parce que $5000, c'est en fait fiche de se foutre de notre gueule, pardonnez-moi l'expression, mais c'est pour moi, c'est une blague, cette sanction.
Pour moi, c'est soit 50 000, soit des places de pénalité au Grand Prix suivant.
Voilà.
C'est un aspect de la sécurité qui est vraiment primordial, puisque la roue peut se balader et heurter des gens.
Mais avec les pénalités financières, faudrait un ratio entre les différentes équipes, alors, parce que 50 000, ça va peut-être handicaper Manor, mais Mercedes, je pense qu'il se passerait volontiers de donner 50 000 euros assez gratuitement, mais ça va pas les handicaper.
Disons que pour une grosse équipe qui est dans le haut du classement, infliger des places de pénalité, ça les frapperait plus, alors qu'une petite équipe qui est toujours en fond de grille, des places de pénalité, c'est pas ça qui vont les toucher, alors que une amende salée, ça va plus les toucher. Donc oui, effectivement, il faudrait adapter dans ce sens-là. On pourrait crier aux deux poids deux mesures.
Justement, mais même à la limite, Manor, que tu leur colles 5 places de pénalité, ils s'en battent un peu le coquillard. As, mine de rien, tu colles 5 places de pénalité, ça commence justement où la moindre place à leur niveau peut faire la différence. Même si c'est pas une bataille pour le titre de constructeur, mais mine de rien pour le classement constructeur qui détermine les primes derrière, justement une place au championnat fait très vite la différence. Ça peut, au contraire, je trouve que 5 places serait quand même, il le sentirait passer, quoi. Plus que $5000, quoi. $5000.
Oui, mais 5000, c'est ridicule.
Mais même à la limite, 50 000, ce serait pas énorme, hein.
Non, on parle de millions.
C'est vrai que pour As, ça serait pas énorme. Donc c'est vrai que dans ce cas-là, une pénalité de place serait intéressante.
Ouais, il y a les pénalités qui s'infligent qu'à l'équipe, comme les pénalités financières, mais on peut imaginer des pénalités plus sportives qui s'appliquent aussi qu'aux équipes. Après, je sais pas si ce serait une bonne chose de pénaliser l'équipe et pas le pilote. Moi, je pense qu'une bonne solution, ce serait de mettre des points en moins au championnat constructeur et au championnat pilote. Parce que si on met que des places en moins au championnat constructeur, ça veut dire qu'on pénalise toute l'équipe, donc tous les gens, le moindre mécanicien qui travaille dans l'équipe, sauf une personne, le pilote, qui serait pas pénalisé. Enfin, pas pénalisé directement. Donc je pense que, par exemple, 20.
Ah, mais il y en a qui te disent dans ces cas-là que le pilote a pas à être pénalisé parce que c'est pas lui qui met la roue, c'est pas lui, voilà.
Oui, mais il y a le directeur d'écurie, c'est pas lui qui met la roue et pourtant c'est lui qui donne les ordres de comment elles doivent être.
C'est lui qui manage l'équipe, le directeur d'écurie. Ça peut être plus compréhensible qu'il soit sanctionné indirectement.
Oui, mais j'ai dit le directeur d'équipe, mais ça peut être aussi le mécanicien qui est resté à l'usine et il se sentira peut-être pénalisé alors que lui, il est resté en Angleterre pendant tout le Grand Prix. Donc, oui. Je pense que si on mettait, par exemple, moins 20 au constructeur et moins 20 points au constructeur et moins 10 points au pilote, je pense que ça pourrait les sensibiliser un peu à la chose. Enfin, je dis des chiffres comme ça, mais je pense que c'est déjà pas mal.
Oui,
après, c'est vrai
qu'on peut évoquer
le cas des constructeurs qui décrochent pas un seul point sur la saison, mais au moins ça veut dire que pourquoi pas partir dans les négatifs aussi.
Rottier, tu retires la prime de fin de fin de saison.
Hein. Bah là, oui, y a les équipes qui vont.
Ah ben voilà comment on finance la FIA.
Donc voilà, faut trouver le juste équilibre, effectivement. Les petites équipes. Faut mieux taper dans le pognon pour leur faire comprendre, alors que les grosses équipes, c'est plus les résultats bruts qui les sensibilisent.
Mais ouais. Bouchard, la FIA a plus intérêt à ce que le plus d'équipes possible marque de points, parce que plus ça marque de points, plus eux, ils ont de l'argent pour acheter les...
Non, ils auraient plus intérêt à ce que Mercedes marque beaucoup de points, le reste...
Oui.
Parce que justement, c'est un effet, plus Mercedes marque de points, vraiment plus là, ils touchent de pognon, parce que Mercedes marque 10 points de, que Ferrari marque 10 points de plus, ou que Mercedes marque 10 points de moins, je pense qu'ils préfèrent que Mercedes garde ses points.
Mais surtout que ça change rien pour tout le monde, parce que les points, de toute façon, il y a autant de points distribués, durant toute l'année, peu importe qui les marque, à part si la course est, à part si la course fait moins de 60, moins de 50%.
Oui. Ou quoi. Messieurs, je propose de passer au quintet mou de cette course. Et le quintet mou. Oui. Le quintet mou commence avec Felipe Nasser qui a fait un moins 16, mais comme il a fini devant Gutiérrez, lui, il n'est pas dans le quintet mou, même si finalement ça change pas grand chose. Esteban Ocon est à moins 12. Ericsson à moins 8 comme Magnussen, Hülkenberg est à moins 6, Button moins 2 comme Pascal Wehrlein, Kimi Raikkonen est à moins 1, Sainz est à 0, Perez est à 1, Lewis Hamilton est à 11 points et Valtteri Bottas à 27.
Il a fini combien Bottas ?
Cinquième,
oui.
Ah, alors là, voilà, un exemple parfait d'une course à la Rosberg.
Ah oui, ça c'est vrai.
Et là, c'est voilà, typiquement. Ah, putain, mais il est fini si haut que ça. Parce que moi, je me suis arrêté au quatrième.
Bah écoute, il est parti 11e, il était 8e au bout du premier tour, et puis il a toujours été, oui, entre la 5e et la 8e place.
Alors j'ai une statistique, c'est la première fois depuis 1987 que Williams réussit sa stratégie.
Ah. Merci, parce que effectivement, c'est intéressant à savoir ça.
Parce que attends, franchement, là, niveau stratégie, c'est parfait. C'était peut-être ce qu'il fallait faire, parce que, enfin, pour un pilote qui partait hors top 10, évidemment. Mais 29 tours en pneu médium, quand même, c'est énorme. Et il avait un rythme plutôt pas mal. Et après, il a fini tranquille en dur. Donc un seul arrêt, vraiment bien. Et bon, on va dire que je sais pas s'il profite vraiment des voitures de sécurité virtuelle. Je saurais pas dire.
En tout cas, son seul arrêt n'est pas pendant une voiture de sécurité virtuelle. Donc, de ce côté-là,
il en profite pas. Et je pense qu'il aurait pu être desservi par rapport à d'autres pilotes qui auraient pu en profiter. Mais finalement, il est devant tous les autres. Donc, impeccable. Il avait le rythme et la stratégie. Même les arrêts au stand ont bien fonctionné. Course parfaite pour Williams. Ça faisait longtemps.
J'évoquerai Ocon, alors on en a déjà un peu parlé, il y a son double déboire dans les stands, où apparemment on ne sait pas si c'est un problème de limiteur ou pas. C'est dommage parce qu'il était très bien parti, hein. Il était 10e à la fin du premier tour.
Ouais, c'était assez incroyable.
Oui, non, mais après, on savait tous que ça allait pas tenir, quoi. Hein. Mais moi aussi, je l'ai vu, je fais « Ah, il est dixième !»
C'est quand même un très beau départ. Et ah, il arrive à se maintenir, plus ou moins, oui, jusqu'au 12e tour. Enfin, je sais pas si c'est ça que je revois... Bah, jusqu'à son premier arrêt, en fait. Une fois qu'il est passé en hard, en plus avec les pénalités de temps. C'est dommage, il aurait pu peut-être au moins finir devant son équipier.
Bah oui, puisqu'il était devant début de course, donc c'est dommage. Et il n'est pas aidé par la voiture de sécurité virtuelle, puisque Verlaine en profite. La dernière, hein, je parle. Là, non, la dernière et la première en plus. Même la première, Verlaine en profite.
Ouais, donc, il par profite, rapport à Verlaine en profite de deux, alors que lui.
Alors que lui, aucune, ouais. Donc, c'est dommage. Mais le rythme, il l'avait, et ça, c'est positif. Maintenant, il faut juste faire attention quand on appuie sur le limiteur.
D'après les tableaux de la FIA, il y a 26 secondes entre les deux manors à l'arrivée, alors que pas très loin de l'arrivée, j'ai le souvenir de les avoir vus côte à côte. Donc, 26 secondes.
Oui, parce que Verlaine finit en tendre. Alors que Ocon a des durs
qui
sont plus usés. Donc là, franchement, le différentiel en termes de performance, il est grand. Hein. Je pense qu'on est dans les 1 seconde et demie, 2 secondes au tour.
Donc après, c'est, oui, il faut souligner la bonne stratégie de Verlaine qui profite des deux. Bon, il y a aussi de la chance quand on profite d'une virtual safety car, mais du coup, il a pris le meilleur de ces deux faits de course pour aller chercher cette place, même si c'est pas très glorieux, mais c'est quand même devant son coéquipier.
Bah pour moi, c'est d'ailleurs assez incompréhensible que Ocon n'ait pas fait cette stratégie, puisque c'est lui qui était devant. Virtual Safety Car, il a les mêmes pneus que Verlaine, il doit rentrer lui aussi. Et après, voilà, il peut faire cette stratégie-là. Donc, parce que là, après, il fait deux gros relais en dur, alors que Verlaine, effectivement, il fait un arrêt de plus, mais donc sous Virtual Safety Car, donc, et il finit en tendre. Donc, assez incompréhensible de la part de Manor.
Ok, alors sinon dans le quintet mou, faut quand même parler de Lewis Hamilton, de ce qui lui est arrivé. Alors au niveau des votes, il fait plus 11 parce qu'il a 25 votes positifs et 14 votes négatifs. Donc c'est, je vais pas dire que c'est très pondéré, mais voilà, il y a quand même beaucoup de votes. Quoi.
Après, je pense que les votes négatifs pour Hamilton, c'est... Alors j'ai le fan de base en face qui me fait un gros signe de tête, parce qu'il sait ce que je vais dire, c'est une sanction plus sur le manque de fiabilité de sa voiture que Hamilton ne souffre d'aucune critique sur son pilotage,
non.
Absolument.
Je pensais que Duchamp allait dire que les points négatifs pour Hamilton, c'était sur sa communication d'après-course. Plus que sur ses...
Je n'ai pas lu sa communication d'après.
Non, c'est, il dit que quelqu'un ou quelque chose l'empêche de gagner, mais après, je pense que ça a été plus mal interprété, et en plus, c'est à chaud, plus que...
Qu'est-ce que tu veux dire, un mec qui a 8 points derrière le leader du championnat, qui mène la course, qui est le leader du championnat, il se retrouve dernier au premier virage, c'est l'occasion en or pour lui de refaire ce retard, et il mène la course, il la gère, mais il est super tranquille devant.
Puis même sans ça, il fait un bon week-end, quoi.
Il fait un très très bon week-end.
Oui.
Et il a son moteur qui lui claque à...
Et un bloc Mercedes qui pète, c'est rare en plus, hein.
Ah oui,
parce qu'il y a beaucoup de choses autour qui. Mais là, c'est vraiment le bloc, c'est vraiment la casse moteur classique. Alors, moi, j'ai regardé sur StatF1, si vraiment on prend le bloc, hein, vraiment le bloc V6, la dernière fois, c'est Australie 2014. Hein.
2014, ouais. En course.
Donc voilà, ouais. On peut pas prendre. Moi, je d'ailleurs, je les ai même pas lus ces déclarations d'après course à Hamilton parce que on peut pas les, on peut, elles ont pas de valeur quoi. C'est comme si tu demandais à Hamilton qui sort de la voiture, est-ce que vous avez les boules? Il va te dire oui, j'ai une grosse paire de boules. Si tu demandes après, est-ce que vous avez voulu avoir à votre moteur, avoir lâché à votre écurie, il te dirait oui. Mais il te dit sur le moment oui, après il va te dire bah il se trouve que ça tombe malheureusement sur moi. Si tu le prends à froid derrière Hamilton, il se dit c'est quand même voilà, c'est un pilote qui menait le Grand Prix, qui la victoire était pour lui et son moteur pète. C'est forcément qu'il est pas content du tout. Hein.
Après ouais c'est vrai qu'il y a un peu moins de classe dans les déclarations d'Hamilton que dans celle de Rosberg quand il subit ses ces soucis-là. Bon, après, ça vaut pas le coup de le pénaliser pour la course. La course est parfaite. C'est dommage, encore une fois, qu'il passe encore une fois, on est privé du duel. Bon, après,
on l'aura pas.
Hein. On l'aura. Bah, c'est très possible. et puis, je suis aussi déçu qu'il y ait cette casse parce que, comme je l'ai dit en intro pour le Grand Prix, bah, j'aurais bien voulu voir ce qu'aurait donné une lutte Hamilton Verstappen. Je pense qu'Hamilton, avec ses pneus frais, parce que je pense qu'Hamilton se sera arrêté, les pneus durs ne tenaient pas 40 tours. Hamilton sera reparti probablement un petit peu derrière Verstappen et ça nous aurait donné un moment un moment intéressant, je pense. Je pense qu'Hamilton serait passé, mais c'est Verstappen et donc on pouvait s'attendre à de l'action.
Mais c'est vrai que jusqu'à temps que Verstappen et Ricciardo aient cette petite bataille, moi aussi je m'attendais, c'était même probable qu'ils ressortent juste derrière ou vraiment pas loin. Effectivement, il y avait un peu l'inquiétude Verstappen à ce moment-là du Grand Prix, mais après avec leur petite bataille Verstappen-Ricciardo, ils ont perdu quand même pas mal de temps sur Hamilton et je pense qu'ils seraient bien repartis devant Hamilton. Hein. C'est pour ça que il serait peut-être arrêté il était à 22-23 secondes hein, quand même et 22-23 secondes t'as le temps de repartir devant hein.
Non mais vous y croyez vraiment que Verstappen aurait fini sur le même train de pneus? Moi j'y crois pas
hein. Et puis même
il aurait fait 42 tours avec ses pneus durs.
Verstappen s'arrête au 27ème.
C'était 30 tours sur s'il avait pas fait ses derniers arrêts c'était 30 tours. Ouais, 29.
Donc Ricciardo,
de notre côté Verstappen avec des pneus, c'est quoi, des durs qu'il avait enfin.
Non mais
des pneus durs en fin de vie et Hamilton avec des pneus frais qui auraient été détendre avec une Mercedes, la Red Bull il en faisait
quelque chose. J'ai précisé que Hamilton, je pense qu'effectivement il aurait passé Verstappen, mais rien que le fait que ce soit Verstappen qui à ce moment-là aurait lutté pour la gagne, je pense qu'il y aurait eu un moment intéressant.
Tu veux dire que Hamilton aurait abandonné mais de façon différente?
Ça aurait été aussi une possibilité, c'est pas faux. Mais je pense que on aurait vu quelque chose. Pas forcément un accident ou un incident, mais c'est Verstappen. Et Verstappen, en plus, en tête du Grand Prix, il y aurait eu de l'action. Ça aurait été un moment sympa.
Et peut-être un peu de carbone.
Alors, il faut quand même qu'on parle du championnat. Il reste 5 courses. Avec ce qui s'est passé, Rosberg a 23 points d'avance.
Que 23 points, finalement.
Que 23 points. Tout le monde a le sentiment que ce qu'on a vécu, c'est un moment qui risque d'être extrêmement important dans la lutte au championnat. Sur le chat, il y a Verstassol qui dit carrément qu'il est passé de 75% à 20% de chance de devenir champion du monde. Il reste 5 courses, quand même, hein.
Oui, 5 courses.
125 points à prendre.
C'est qui? C'est Verstappen qui dit ça?
Non, quelqu'un sur le chat.
Verstappen. Ah oui. Mais alors, les chiffres, faudrait savoir d'où il les sort.
Comprends l'idée.
Que ce soit 75 ou 20, d'ailleurs. De toute façon, ça dépend du résultat final. Effectivement, si Rosberg est champion, la Malaisie aura été un tournant. Si Rosberg n'est pas champion, c'est une autre course qui aura été un tournant. Je pense
parce qu'on le sent chez Hamilton quand même, quand il y a cet accident, qu'on le voit. D'ailleurs, il y a eu plein de photos de même. Il y en a qui l'ont mis avec la fameuse photo d'Alonso sur son Transat. Tu sens que même lui, il sent que là, il y a un truc.
En gros, tu dis, c'est surtout un tournant sur le mental d'Hamilton. Moi, je pense que sur un truc comme ça, mais il est deux fois plus dangereux qu'avant, Hamilton. Je pense que ça l'a renforcé plus que le démotivé. Après, le truc, c'est qu'il reste 5 courses. On ne sait pas comment elles vont se passer. Si imagine que Rosberg gagne les cinq dernières courses et qu'il creuse encore l'écart, finalement, c'est pas forcément...
Mais après, il peut aussi y avoir quelqu'un qui le dit sur le chat, hein, 23 points, c'est...
C'est rien.
C'est beaucoup et pas beaucoup à la fois. C'est-à-dire qu'en effet, dimanche prochain, il suffit que Rosberg sorte, Hamilton gagne, et puis ils n'ont plus que 2 points d'écart, hein.
C'est surtout que Hamilton reprend la tête pour 2 points. C'est même qu'il reste derrière, c'est qu'il reprend la tête de 2 points seulement, mais il reprend la tête. Donc, c'est comme on dit, 23, c'est beaucoup et pas beaucoup à la fois.
Rosberg peut avoir un problème technique, il peut se faire accrocher. Même à la régulière, il reste 5 courses. Imaginons qu'Hamilton gagne les 5 dernières.
Il gagne.
Mais l'année dernière, on avait, je crois que c'était dans les SAV d'or, on avait souligné le fait que la chance d'Hamilton, c'était d'abandonner sur un Grand Prix où Rosberg pouvait pas faire mieux que quatrième, c'était Singapour, il me semble. Oui, Singapour. Mmh. Et là, sa chance, c'est d'abandonner alors que Rosberg est pas deuxième derrière lui au moment où il abandonne aussi.
C'est vrai.
Mmh, oui.
C'est vrai que là où Rosberg ne gagne que 3 points, là où Rosberg aurait pu gagner 7 points, en gagnant une place, il ne gagne que 3 points avec cette place gagnée. Voilà, c'est... Pour moi, c'est trop tôt pour se prononcer. 23 points, encore une fois, c'est rien. C'est... Et on voit à chaque fois, il y a des séries. Hein. Il y a eu la série de Rosberg en début de championnat. Il y a eu la série d'Hamilton en juillet.
Mais c'est ce que j'allais dire. Vu les 16 premières courses de la saison qui nous ont donné, on peut dire, de tout. Il n'y a pas un pilote qui est clairement au-dessus de l'autre. Il n'y a pas clairement un pilote qui a eu... où là, toute la saison roule pour lui. C'est tellement aléatoire, j'ai envie de dire. C'est par période ou c'est peu ponctuellement, donc moi je fais aucun pronostic sur la fin de saison et sur le champion. C'est...
Ouais, non, moi non plus.
Vous avez des choses à rajouter sur Hamilton?
Sur Hamilton, non.
Non, ou sur un autre pilote d'ailleurs du Quintet Mou?
Un autre pilote du Quintet Mou, bah, je pense que Raikkonen on l'évoquera peut-être en même temps que Rosberg, non? Je sais pas.
Mais pourquoi cela?
Non, pas de Button, Hülkenberg, il y a Sainz, il y a Perez.
C'est Button, Hülkenberg, c'est des bonnes courses parce que c'est dans les points, mais c'est pas surprenant. Donc,
ouais, c'est de l'attendre.
On les a vus venir, ouais.
Ils sont là où ils doivent être, en fait, d'ailleurs.
Oui, ils se sont pas distingués particulièrement.
Non, que ce soit en bien ou en mal, ils se sont pas distingués, en fait.
C'est ça.
Là où on a à dire, c'est ceux qui restent les pilotes à découvrir dans le Quintet Plus.
Oui.
Ah, et quelqu'un il y a Ben Wema qui demande comment ça se passe pour le moteur d'Hamilton. Du coup, vu qu'il était neuf, il va s'en farcir un usé.
Bah, il a son capital moteur accumulé à Spa, de trois moteurs, mais après, on ne sait pas quel moteur il a utilisé en Malaisie.
Apparemment, sur Ben Wema, il était peut-être neuf. J'ai pas vu l'info. Hein.
Je sais plus où j'ai vu le truc. Si je l'ai lu sur Twitter ou si c'était dans un article qui disait apparemment, du coup, maintenant, Hamilton avait avec Spa, il avait un capital moteur d'un moteur de plus que Rosberg. Et du coup, là, ça les mettra à égalité sur le niveau capital moteur.
C'est pas possible parce que 5 plus 3, ça fait 8. Avec le moteur qui vient de perdre, ça fait 7. Rosberg reste à 5. Et à mon avis, Rosberg, c'est même peut-être surveillé. Je pense que les moteurs de Rosberg sont très surveillés,
oui, mais
comme ceux d'Hamilton d'ailleurs. Mais
Scanning nous dit que Loda a dit qu'il était tout neuf.
C'est ça.
Loda, il n'est pas tout neuf, hein, ça c'est sûr. Hein, quand on voit son...
Non.
Quentin, c'est 7 moteurs, mais dont 2 qui ont claqué d'Hamilton.
Et en effet, il y a une étude motorsport, oui. Pied d'égalité avec Rosberg, niveau moteur.
D'ailleurs, je m'étais fait cette réflexion avant ce week-end, je vous promets. Hein. Je m'étais fait cette réflexion avant le week-end en me disant, Rosberg, c'est pas totalement serein au niveau moteur. Il peut tenir jusqu'à la fin de l'année, mais ça implique peut-être de rouler à l'économie certains temps, il y a un risque de casse. Si j'avais été lui, je pense que j'aurais accepté une pénalité, enfin des changements de moteur sur ce week-end-là, parce que on peut largement doubler ici en Malaisie. Il y avait moyen de faire ça. Et je songeais à ça avant le week-end. Hein. Et je m'étais dit, ça aurait pas été idiot, ça l'aurait mis avec plein de moteurs, il pouvait vraiment se bagarrer. Et bon, après, sur le Grand Prix en lui-même, il pouvait vraiment espérer remonter. Et donc, là, en voyant la course, je me dis qu'il aurait effectivement mieux fait de faire ça, puisqu'il serait parti dernier, et donc le résultat aurait été... peu ou prou le même pour lui.
Messieurs, avant d'évoquer les pilotes du Quintet Plus, y a-t-il des pilotes, donc parmi le Quintet Mou et le Quintet Moins, auxquels vous voudriez donner un point ou peut-être mettre un point de pénalité? Je vais vous redonner la liste des noms. Bottas, Hamilton, Perez, Sainz, Raikkonen, Verlaine, Button, Hülkenberg, Magnussen, Ericsson, Ocon, Nasser, Gutiérrez, Grosjean, Massa, Gviat et Vettel.
J'hésite entre Bottas et Hamilton, qui sont tous les deux au portes du Quintet Plus. Bottas pour la stratégie Williams en général et sa super performance quand même. Enfin, c'est pas une super performance parce qu'il profite quand même de l'abandon d'Hamilton, de l'abandon de Vettel. Donc au final, il serait quoi, 7e, c'est la place normale d'une Williams. Mais ce week-end, les Williams, c'était pas top. C'est la place normale d'une Williams sur la saison, mais sur ce Grand Prix, c'est pas la place normale d'une Williams, je pense. Et je pense que c'est vraiment la stratégie qui a permis ça, et Bottas a su mettre en œuvre la stratégie. Bon, Massa, on sait pas trop ce que ça aurait pu donner, mais en tout cas, c'est Bottas qui fait la démonstration de cette stratégie, donc je pense que c'est à lui qu'on revient le point.
Alors, ah tiens, tu te posais la question sur les chiffres de Verstappen, il répond sur le chat. Il dit son chiffre a l'air un peu abusé en effet. Il regardait un bookmaker hors Argel, donc hors France, qui prend peu de marge. Ils estiment les chances de Lewis, et c'est vrai que les pourcentages de bookmakers sont souvent des bons indicateurs, entre 35 et 40%.
Oui. Mmh. Ouais, je me rapprocherais même un peu plus des 50. Mais c'est le 75% devant la course, j'ai pas compris là par contre. On parle d'un mec qui était même pas en tête du championnat, donc je vois pas comment il peut avoir 75% de chance d'être champion.
Enfin bon.
Pour Bottas, oui, c'est vrai en plus que sur... j'ai vraiment eu l'impression que Force India et McLaren étaient un poil supérieur à Williams. Jusque d'ailleurs une tendance. Hein.
Moi je dis, on devrait encourager les stratégies réussies de Williams parce que c'est tellement rare. Moi, honnêtement, Hamilton, j'y ai pensé pour le mettre un point parce que je trouve qu'il ne soit pas dans le Quintet Plus. Je trouve ça quand même un peu sévère.
Bah, c'est vrai que c'est dur. Et puis, alors, de toute façon, je trouve, mais c'est globalement depuis le début de saison que Hamilton est quand même assez durement noté. Mais c'est une opinion personnelle. Quand je vois son classement au classement du SAV.
On est d'accord.
Mais oui, Bottas, c'est vrai que pour une fois qu'il réussisse bien un truc.
Voilà, c'est ça. Mais tout a réussi, Bottas. La stratégie et la voiture a bien fonctionné. La stratégie de Williams était réussie. Et Bottas a parfaitement appliqué la stratégie. Bon, ça, c'est plutôt fréquent. Mais tout est bien combiné. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, j'étais moi-même surpris de réaliser qu'il a fini 5e. Donc, j'aimerais bien encourager ça. Puis le pauvre Bottas, il n'a pas beaucoup souvent l'occasion d'avoir des points positifs. Mine de rien. C'est pas lui, yes, c'est surtout son écurie.
Alors Fab, il est étonné. Il est étonné quand même. Non, mais je sens que c'est du second degré. C'est le second degré de Fab qui me met en gros sur le chat. Hamilton, assez durement noté. Bah oui.
Non, mais Fab, il manie pas l'ironie comme ça. C'est pas son style.
À peine.
On sent Fab légèrement frustré par le Grand Prix de dimanche. Depuis...
Alors honnêtement, il n'y aurait pas eu Bottas et la course réussie à 5e place. Je voterais pour mettre un point à Hamilton. Là, j'ai une légère préférence pour Bottas parce que là, tout a réussi.
Tant qu'on est sur les Williams, il y a un Anon sur le chat qui nous dit c'est quand même assez étonnant de voir McLaren taquiner d'aussi près Williams, mais c'est pas étonnant sur ce week-end. Parce que les McLaren comparés aux Williams, on les a vus arriver quand même ce week-end. Et on en discutait avec Bouchard dans le week-end. Plus on avance dans la saison, plus McLaren a les moyens de développer une voiture 2016. Mmh. Alors que Williams a moins de moyens que McLaren, donc vaut mieux qu'ils se concentrent sur 2017. Donc c'est pas étonnant de voir
McLaren. Ça a souvent été une grande force de McLaren, hein, d'ailleurs, le développement en cours de saison.
Oui.
Ce qui n'est pas une surprise d'ailleurs, le développement de McLaren. Mmh. Donc,
on met un point à Bottas.
Oui.
On peut pas en mettre deux.
Non. La question s'est déjà posée.
On peut le diviser en deux ce point peut-être.
Là, j'avoue que Hamilton le mériterait. Moi, je l'aurais plus mis à Hamilton.
Ouais, mais moi, après, Hamilton, je suis d'accord parce que. Mais le problème, c'est que c'est quand même mine de rien la course d'Hamilton, ça reste un tout et son moteur a mine de rien lâché.
Oui,
mais qu'il soit pas premier du Quintet Plus, je suis entièrement d'accord. Voilà, à un moment donné, il y a aussi un équilibre que je trouve un peu plus justifié que le fait que Bottas ne soit pas récompensé de la bonne course et je rappelle la bonne stratégie de Williams.
Oui. Non, mais après, d'un autre côté, si Hamilton n'avait pas abandonné, il serait dans le Quintet Plus.
Oh, je suis pas sûr.
Bah si. Si, parce que le vainqueur, je sais pas, j'ai pas les chiffres.
Quand tu vois les classes,
justement.
Tu t'as pas écouté ce que j'ai dit, justement.
Non, justement.
Il y a eu cette saison un vainqueur de Grand Prix qui était même pas dans le Quintet Plus.
Oui.
Oui, mais alors c'est parce que c'était pas, on va dire qu'il dominait pas. Enfin, je sais pas. Peut-être Monaco. Ah
mais si,
par
justement,
exemple.
Il dominait. Mais le problème, il est là, c'est qu'un pilote qui domine, qui est 40 secondes devant tout seul, il est pas de nos jours, c'est pas bien, mais c'est pas bien vu. Surtout s'il se passe des trucs derrière lui, donc.
Ouais. Après, pour moi, le plus simple, c'est voilà pour réparer un petit peu. Voilà, c'est. Je sais pas. Pour moi, c'est.
Mais comme
c'est
tu
dur,
dis,
quoi,
je voudrais bien. Je serais prêt à réparer l'injustice. Le problème, c'est que pour moi, Bottas mérite un tout petit peu plus ce point que le fait de réparer l'injustice d'Hamilton.
D'accord. Bon, vous allez.
Je veux dire, j'ai même un fan d'Hamilton qui m'approuve
oui.
en face.
Oui, oui.
Et je ne le menace pas, promis juré, je ne le menace pas.
Imagine Bouchard avec un flingue sur la tempe de. bon, bah, donne-moi un point à Bottas alors.
Et toi, Shinji, tu es d'accord avec ça?
Moi, je suis assez d'accord. Donne-moi un point à Bottas. Allez.
Ça se fait, c'est tellement rare qu'on attribue un point.
En même temps, techniquement, il est 6ème du classement, donc c'est super logique qu'il ait un point.
Oui, c'est vrai.
Eh bien, messieurs, dans ce cas-là, nous allons aborder le Quintet Plus. Ceux qui marqueront des points en plus de celui de Valtteri Bottas cette semaine. Et à la 5e place du Quintet Plus, il a marqué 30 points positifs qui se sont répartis en 42 votes positifs et 12 votes négatifs. Il a été loquace à la radio. C'est Max Verstappen.
Je suis assez surpris de le retrouver dans le Quintet Plus quand même. Parce que déjà, il termine derrière Ricciardo, même si c'est pas forcément sur la performance, mais surtout parce que en ce moment, il a pas la cote, en tout cas dans les votes.
Oui, non, mais il a une très grosse fanbase. En fait, toute la fanbase de Kimi s'est reportée, qui était en manque et tout, il s'est reporté sur Verstappen. On ne sait pas pourquoi, il faudrait faire des analyses de sociologie là-dessus, mais voilà.
Ouais, mais là, je suis pas d'accord. Je trouve que Verstappen fait vraiment une bonne course. C'était...
Oui.
Il y aurait pas eu cette virtuelle safety car en fin de course. À mon avis, il terminait devant Ricardo. Et mine de rien, lors du redépart de la course, il est quand même derrière. Et voilà, il est un peu... pas victime. Enfin, si, il est un petit peu victime du premier virage, même si c'est pas énorme. Et pourtant, il fait vraiment... Voilà, il tente une stratégie. Et cette stratégie, elle aurait pu l'amener au minimum, enfin, je pense, deuxième devant son coéquipier. Donc, mine de rien, sa course est bonne. Et il fait pas d'erreur. Il attaque. Il est vraiment rapide. Donc, moi, ça m'étonne pas de le retrouver dans le Quintet Plus.
Oui.
Après, ce qui m'a étonné, c'est qu'il ait pas réussi à doubler Ricardo pendant ces deux, trois tours.
D'un côté, Bilo, tu dis que sans la dernière Virtual Safety Car, il pouvait terminer devant Ricardo, mais peut-être que sans la première sans la deuxième plutôt, parce que c'est pendant la deuxième qu'il fait son premier arrêt, peut-être qu'il aurait pas, il serait pas retrouvé avec cette situation pneumatique au moment de cette bataille avec Ricardo aussi. Donc ça aurait été une bataille à la régulière sur le Grand Prix. Donc c'est des si. Après c'est des si, donc on sait pas. Mais
il y a la première, je suis d'accord, mais la première Virtual Safety Car, les pilotes ont le choix.
Oui.
Et Ricardo décide de pas rentrer, Verstappen fait un pari. Par contre, à celle qui intervient suite à l'abandon d'Hamilton, Verstappen, il sait que, de toute façon, à partir du moment où Ricardo rentre, Verstappen, il est obligé de rentrer. Parce que Ricardo, il va perdre un minimum de temps au stand, et après, il va pouvoir bombarder avec les pneus neufs. Donc, Verstappen, il est obligé de rentrer. C'est ça la différence pour moi. Verstappen a pris un pari qui allait s'avérer payant et il s'est passé autre chose qui l'a contraint finalement à rester derrière Ricardo.
On nous dit sur le chat, enfin c'est Redscape pour le citer, qui nous dit Verstappen il est bon mais pour le citer, mais bordel il est trop jeune dans sa tête. Et pour le coup, je trouve que c'est quelque chose, peut-être on est passé à côté sur, où ça se voyait moins sur sa première saison et sur ce début de saison, mais depuis qu'il est, pas forcément depuis qu'il est chez Red Bull, mais depuis quelques grands prix, ça commence à se voir et c'est peut-être, c'est gênant, je trouve.
Ouais.
Oui. Je pense qu'il est cinquième, il est que cinquième dans le Quintet Plus parce qu'il paye un peu ses déclarations, ses communications radio.
C'est vrai que ça paraissait très exagéré. Ça faisait vraiment le gars qui veut en faire des tonnes pour bien se dédouaner parce qu'il sait que ça va lui retomber sur la gueule.
Non, mais c'est surtout non. Je pense qu'il y a aucune. Honnêtement, je pense qu'il y a aucune stratégie de communication si il réagit comme ça. Mais disons que quand je l'ai entendu, moi, je me suis dit, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Mais c'est ça. En fait, c'est ça le problème, c'est qu'il est le premier à pointer le doigt les erreurs des autres et en faire effectivement beaucoup. Alors que derrière, quand lui, il en fait beaucoup sur la piste et qu'on pointe un peu le doigt vers lui, il comprend pas.
Je me demande si c'est pas Gus Gus que j'ai vu ça sur Twitter. C'est peut-être quelqu'un, je sais pas, mais qui peut-être Dino. Je ne sais pas. S'il nous écoute, il se reconnaîtra ou pas. qui disait que voilà la différence entre un type qui est 4 fois champion du monde et quelqu'un qui a
c'est Dino.
Une victoire. C'est Dino. Voilà.
Bah
mais
oui,
que
dépend Vettel,
bah
c'est
voilà.
Dino.
mais non, oui, mais c'est... voilà, sur le fait que Vettel, il avait merdé et voilà, il a reconnu qu'il avait merdé, bien qu'il y a sans doute d'autres fois où ça n'a sans doute pas été le cas. Alors que Verstappen, tu lui demandes pour Monaco l'an dernier, il te dira que c'est pas de sa faute.
Oui, mais
un an après.
voilà, ça différence. Mais après, oui, très bonne course de Verstappen. Je mettrai cependant un petit bémol. Je dirais qu'il a quand même pas réussi à dépasser Ricciardo.
Oui, mais pour moi, c'est un gros bémol parce que finalement, ça lui coûte la victoire. Il est en plus neuf, beaucoup plus neuf que. Pas vraiment neuf, mais beaucoup plus neuf que ceux de Ricciardo. Et sur un circuit où on peut facilement dépasser et il n'y arrive pas. Et mine de rien, ben voilà, ça lui coûte la victoire.
Alors, je dis que c'est un petit bémol parce qu'il a su rester propre, Verstappen.
Oui.
Et qu'apparemment, c'est quand même un peu difficile de temps en temps pour lui de savoir rester propre. Mais c'est vrai que sinon, après, je suis mauvaise langue parce que quand il s'agit de dépasser, il est plutôt propre. Effectivement, c'est dans la défense qu'il n'est pas propre.
Oui, voilà.
C'est vrai que je retire ce que j'ai dit au début. Non. Donc, mais effectivement, le bémol, il y a un bémol, c'est qu'il n'a pas réussi à dépasser Ricciardo.
J'ai cru qu'il allait le faire en plus lorsque. Alors quel virage c'est ? Vous savez, il y a un gauche-droite un peu en descente dans le début du deuxième secteur.
Oui, virage 5.
Il passe 5-6. À l'extérieur et on pense qu'il va passer. Et là, il laisse vraiment beaucoup de place à Ricciardo. Ce qui fait que Ricciardo peut vraiment se. Si, parce que Ricciardo prend son virage tranquille hein, en étant à côté. Enfin, pour moi, je pensais. Je pensais que Verstappen allait prendre le dessus définitivement à ce moment-là.
Ah oui,
il a, on va dire, élargi sa trajectoire à la sortie de ce gauche-droite.
Alors par contre, quand même, quand je dis je suis un petit peu même bémol parce qu'il n'a pas réussi à doubler Ricardo, à aucun moment je ne sous-entends que Ricardo est moins bon, quoi que ce soit. C'est juste que de ce qu'on nous vend, vu comment on nous vend Verstappen, à un moment donné, tu te dis, il aurait dû doubler Ricardo, mais c'est Ricardo. Tu le doubles pas non plus comme ça.
Messieurs, on passe au quatrième du classement.
Allez, chiche.
Il a marqué, que je ne me trompe pas, 37 votes positifs, un vote négatif. Mais surtout, alléluia, mes frères! Vous pensez que c'était impossible? Vous pensez que... De toute façon, on le savait depuis le début de saison, c'était un grand habitué du quintet moins, des Q1, d'être tout au fond, d'être le gars en jaune là-bas, oui, sur le bas-côté, celui qui... la voiture tourne plus. Jolion Palmer a marqué un point!
Le drapeau jaune mobile. Bravo, bravo. On n'y croyait plus, hein. Bon, on n'y a jamais cru, en fait. Non, bien. Bon, j'ai pas vu sa course, mais bien.
Oui, pour le coup, c'est aussi une course à la Rosberg, celui.
Oui, effectivement, parce que tu te dis...
Il est parti 19e, à la fin du premier tour, il est 14e.
Déjà, tu es là à la fin. Mais il a fini la course. Oh, il est 10e. Mon Dieu.
Mais pour le coup, c'est pas la même stratégie que Bottas, mais c'est une variante. Il part en pneu
En pneu dur, il fait 31 tours, un seul arrêt, et il termine sur des tendres avec 25 tours sur les tendres. Mais ouais, stratégie en arrêt, mais comme quoi, pour faire des remontées, cette stratégie, c'était la meilleure. Après, je pense que pour les premiers, genre Ricciardo, Verstappen, comme ils, peut-être même aussi Rosberg et Raikkonen, comme ils étaient en bataille directe avec d'autres pilotes, il fallait peut-être mieux avoir les pneus les plus frais au meilleur moment de la course. Mais pour faire les remontées type Palmer-Bottas, la stratégie en arrêt a été quand même très, très, très efficace.
Non mais bonne course de Palmer, voilà, il faut le dire. Et puis voilà, qu'il soit dans la quinté plus, ça rajoute son petit, ce petit peps.
C'est pas la première fois, hein. En Australie cette année, il était aussi dans la quinté plus.
Ah oui, parce qu'il nous avait agréablement surpris. Pour ça, on avait été un peu méchant l'interstate.
Et puis après plus rien.
Ah ben oui, forcément, il avait rien fait après. C'est surtout qu'il avait
crevé le soufflet, quoi.
Oui, en Hongrie, il fait une bonne course, mais il se rate sur le virage 1, 2, 3, 4, je crois, et il part en tête avec eux.
Ah, ça arrive, et ça, forcément, ça coûte cher au quinté plus.
C'est durement fonctionné.
C'est le genre de truc qui te fait passer direct du quinté plus au quinté moins.
Ouais, oui,
tu passes pas par le quinté mou. Hein.
Le quinté est cruel. Ouais. Super course pour Palmer. Bonne stratégie, ouais, effectivement, aussi.
Voilà, je crois qu'on a à peu près tout.
Ah bah c'est vrai que c'est plus symbolique parce que dire que Palmer a fait une meilleure course, un meilleur week-end globalement que par exemple Hamilton ou Bottas, c'est peut-être pas le cas, mais c'est vrai que c'est symbolique parce que c'est son premier point en Formule 1. Mais bah, est-ce que c'est vraiment mérité si on creuse un peu
C'est toujours été le quintet. T'as un pilote qui est largué et que bah, quand il fait une perf honorable, boum, ça mérite quintet plus. Alors qu'un pilote qui est très bon toute l'année, bah, quand il fait une perf juste honorable, bah, ça vaut quintet moins. Voilà.
Alors les mauvaises langues diront que c'est son premier et dernier point en Formule 1. Mais...
bah savoir.
Mais ce sera pas sa dernière course.
Non, au moins 5. Après, bon, c'est déjà qu'il sera pas remplacé par Perez. Parce que, on en a pas parlé, mais,
oui.
Buchor, tu hésitais samedi, mais c'est officiel maintenant.
Et Perez, moi j'ai dit, ça y est, je peux discuter du cas de la reconduction de Perez chez Force India, c'est officiel. Voilà. Et du coup, on n'a plus rien à dire sur ça.
Ouais. Ouais, il fallait que ça arrive pour qu'on ait plus rien à dire sur ça.
Je veux dire, décision logique de part et d'autre.
Allez, messieurs, on va aborder le podium de la course. Et il est arrivé troisième avec 52 votes positifs et 4 votes négatifs. C'est quand même celui qui a eu énormément de bol ce dimanche. Hein. C'était pas forcément bien parti, puis c'était très très mal parti. Puis ça s'est amélioré, puis ça a été beaucoup mieux que prévu. C'est Nico Rosberg.
T'as oublié un petit passage. Ça s'est amélioré. Après, il y a eu une petite inquiétude. Et après, il y a eu vraiment là, un élément.
Il s'est aussi légèrement essuyé sur une Ferrari. Ah, parce que Wolf a beau dire que c'est pas mérité, les 10 secondes et tout ça, quand même, sur le dépassement.
C'est surtout que pour Shinji, il s'est essuyé sur la mauvaise Ferrari.
Bah, il s'est essuyé sur la serpillière de Ferrari.
Ah, il a vu un paillasson, il s'est essuyé là-dessus.
J'étais triste, en plus, après, il est quand même assez rapide, voire plus de 10 secondes.
Ah, parce que t'espérais qu'en plus, Raikkonen puisse passer devant avec ses...
Moi, c'était plus beau que ça. C'est-à-dire qu'il y a un moment dans la course où tu te dis... Il y a les deux Red Bull.
Oui.
Les Red Bull, elles vont se percuter. Si Raikkonen, il est moins de 10 secondes derrière Rosberg, bingo.
Mais c'est plus que ça. C'est plus que ça, Shinji. Tu te dis pas ça, tu le tweets. Il y en a qui l'ont fait.
Mais oui, je l'ai tweeté.
Ben oui, je sais. Non, mais après, sur Rosberg, il fait quand même une sacrée belle remontée. Hein.
Oui.
Parce que... Je sais pas si vous avez fait gaffe. Moi, c'est surtout un truc que je me suis dit. Je sais pas si vous avez fait gaffe, mais une fois qu'il se retrouve en marche dans le mauvais sens au premier virage, je sais pas si vous avez vu le burn qu'il a fait pour se remettre dans le bon sens. Je pense qu'il a dû cramer la moitié de ses pneus arrière.
À la fin du premier tour, il est 17ème.
Il est déjà 17ème à la fin du premier tour.
Oui, mais il y a plein de... Enfin, plein. Vettel.
Ah oui. Ah oui, oui, il y a plein qui sont rentrés au stand.
Plein qui sont rentrés au stand. Magnussen, on n'en a pas parlé, mais son aileron, c'est...
Bah, derrière lui, je vois... Alors, c'est derrière lui, au premier tour, il y a Magnussen, Massa qui est rentré, on en a parlé.
Oui.
Gutiérrez, Gviat.
Bah, tous ceux qui ont eu des petits accrochages dans ce premier virage, finalement. Magnussen aussi, il bloque son aileron avant sur la voiture, on l'a pas vu, mais... Enfin, on l'a vu très furtivement.
Ouais, non, mais après, bon, il remonte bien.
Ouais.
Bon, ouais, il remonte bien.
Verras, il a une Mercedes, mais à un moment donné, il faut la faire, la remontée. Il faut attaquer tout le long. Alors après, peut-être que du coup...
Il n'y a pas eu de safety car pour réduire les écarts.
Et il n'y a pas une de safety car pour réduire les écarts, en plus. Oui, parce qu'en plus, si tu réduisais les écarts, c'était ça de boulot en moins pour lui, hein, Rosberg. D'ailleurs,
je pense que... Ça mise de rien, cette saison, les fois où où il s'est retrouvé... loin, soit à cause d'un, par exemple au Canada ou en Autriche, lorsqu'il part loin, lorsqu'il se fait passer au premier virage, à chaque fois il n'y a pas de safety car pour l'aider, donc c'est pas si évident.
Oui, parce que tu mettais une safety car dans l'équation durant la course, à mon avis la victoire d'une Red Bull, elle pouvait être largement compromise.
Ça aurait pu faire une bataille à 3.
Ah, c'est tout de suite plus intéressant quand il y a trop. Non, ben voilà, oui. Rosberg, ben, de toute façon, après, son premier virage, c'est pas sa faute. Donc, déjà, tu peux pas le blâmer pour ça. Et après, ben, la remontée, combativité. Il s'est un peu essuyé sur Raikkonen après.
Sur ce dépassement, effectivement, on peut pas dire que c'est propre. Mais je pense que ça aurait mérité une vraie pénalité. Je pensais, moi, une réprimande ou avertissement. Mais les avertissements, les commissaires, même s'ils en ont parlé il y a pas longtemps, ils savent pas toujours le. Ouais, je crois qu'ils ont pas trouvé le drapeau pour le mettre. Mais je m'attendais pas à ce que la pénalité soit concrétisée sur ce Grand Prix. Après, c'est vrai, on peut pas dire que c'est un dépassement propre, mais ça passe, j'ai envie de dire. Après, il y a des dépassements où ça passe et on aurait préféré que ça passe pas parce que c'est pas propre.
Ah, il y en a qui disent que voilà, que du coup ils disent ouais, mais Rosberg il s'est pas dépassé sans toucher truc. Bon, il en a quand même doublé 15 avant sans
oui, problème. Voilà.
C'est pas que je l'ai trouvé agressif le dépassement, je l'ai trouvé peut-être presque précipité. Parce qu'en fait, il attendait un demi-tour de circuit, il le doublait à l'aise à Raikkonen. C'est juste que là, il a manqué d'un peu de patience. C'est plus pour ça que je blâmerais chez lui. Après,
et puis c'est lui qui prend le plus de risques parce que c'est lui qui est en bataille pour le championnat, donc il a des risques à prendre sur ce dépassement. Et puis vu l'angle qu'il prend pour aller chercher cette trajectoire, il pouvait très bien laisser son aileron sur la Ferrari, donc ça lui aurait coûté peut-être très cher. Oui, ou même
oui,
la roue. Après, effectivement, c'est pas propre, mais là où je m'attendais à ce que ce soit un avertissement ou une simple réprimande entre guillemets, c'est que c'est pas un virage rapide et c'est pas forcément une manœuvre très dangereuse, même si c'est pas propre.
Oui, c'est pas.
Donc c'est pas dangereux, c'est pas un virage. On n'est pas côte à côte dans le raidillon, hein. On est sur une épingle. C'est pas, même si engrenage des roues, c'est pas. Ça peut être spectaculaire, mais ça devient pas dangereux forcément.
Ouais, je trouve que c'était inopportun parce que je pense qu'il pouvait attendre un tour dans la ligne droite et dépasser tranquillement. Et c'est quand même, il pousse quand même Raikkonen pour dépasser. Donc.
Mais si ça se trouve, même...
Pousser quelqu'un pour le dépasser, pour moi, ça mérite une petite pénalité, quand même.
Mais si ça se trouve, il le dépassait même au virage 3, hein, Raikkonen. Il avait la
portion d'un... Oui, voilà, il pouvait attendre un meilleur...
C'est pour ça que je dis, c'est plus... C'est plus la précipitation, pour moi, c'est ça qu'un truc trop osé, quoi. C'est tout. Bon, après, il prend
quelques
secondes, c'est pas non plus...
Pour moi, il a agi à l'instinct, quoi.
Ouais, voilà. Après, mais le truc, moi, ce qui me gêne, c'est que dans le fait qu'il prenne 10 secondes
de plus. Il y a Fab qui corrige quand même, qui dit, par exemple, Maldo Gutiérrez à Bahreïn 2014, ça allait pas vite et ça a quand même été dangereux.
Oui, mais c'est aussi parce que c'est spectaculaire qu'on a l'impression que c'est dangereux. Après, effectivement.
On dit, il faut sanctionner l'infraction, pas les conséquences potentielles.
Exactement.
Oui, mais je suis complètement d'accord avec ça. C'est pour ça que je dis que là, c'est pas forcément dangereux parce que c'est une épingle et parce que. Voilà.
Quelque chose à rajouter sur la course de Rosberg ?
Après, je me suis fait la remarque pendant la course. C'est assez criant parce qu'on est en Formule 1. Mais des pilotes qui poussent un peu dans un virage pour passer, ça existe un peu partout en sport auto. Après, c'est vrai que faut prendre en compte qu'on est en Formule 1, que les roues sont très, peuvent très
sont libres, pas ouvertes, sont, ouais, c'est une carrosserie ouverte.
Vulnérable.
Donc faut adapter aussi cette vision des choses à chaque sport, mais c'est pas très.
D'ailleurs, pour vous l'avouer, c'est que quand Thème m'a fait réflexion pendant la course, il m'a fait si ça avait été des voitures en carrossée.
C'était une petite poussette, quoi.
Voilà, c'est une petite poussette, oui. On n'en faisait pas tout un plat, quoi.
Et Franck Lagorce aurait été à...
Il a... Voilà. Laisse-le là où il est très bien, Franck Lagorce.
Quoi, il est où?
Je sais pas, mais il est très bien là où il est.
Chez toi aussi?
Je crois qu'il est sur équipe du DWRX, parce que j'ai vu passer un tweet.
C'est ça.
Oui,
c'est
où
moi,
il confondait Lituanie et Lettonie, enfin... Bah sinon, voilà, il sort de ce Grand Prix de Malaisie, qui n'était pas forcément à son avantage. En plus, la course s'est mal passée, au début en tout cas, et ressort en tête du championnat, encore une fois.
Oui. Il ressort en tête, s'il creuse l'avantage.
Il creuse, oui, plutôt, oui, il creuse.
Ce sur quoi pas grand monde aurait parié avant l'élection des Feux Rouges.
Plutôt après, une fois que tout le monde avait vu que Hamilton avait pris un bon départ.
Oui.
Oui.
Allez, en deuxième du classement, il a marqué 51 points, 52 votes positifs, 1 vote négatif. Personne n'a eu 0 vote négatif dans le
Attends, tu peux rappeler les deux pilotes qui restent, parce que j'en vois qu'un seul là.
Alors, il reste un pilote australien dans une écurie autrichienne avec un moteur français mais qui est badge suisse, et un espagnol dans une écurie anglaise avec un entre guillemets moteur japonais.
Un moteur de F1 ou de GP2?
C'est la question qu'on se pose toutes les semaines.
Ouais.
Attends, dimanche, ce sera peut-être un moteur de GP2, mais à Malaisie, c'est un moteur de F1.
Non. Une idée?
Bah, ouais, Alonso.
Ouais, Alonso deuxième.
Ouais, Alonso, ouais. C'est Alonso, en effet. Qui partait dernier? Qui a fini septième? Et alors, je regarde en plus sa stratégie. Il a même pas fait une course en un arrêt. Il a fait une course en trois arrêts. Plus proche par exemple d'une stratégie comme celle de Rosberg par exemple, ou des pilotes de tête. Donc ça a très bien marché pour Alonso.
Il prend déjà un très bon envol, sans parler du premier virage. Son envol est très bon. Après il profite du premier virage pour gagner encore quelques places. Mais après
à la fin du premier tour, il est 12e, ouais. Déjà
il est 12e, donc ça fait 10 places de gagné. C'est pas mal quand on sait qu'il arrive.
Et après, il n'est jamais redescendu au-dessous de la 15e place. En étant souvent à la porte des points, quoi. Vous savez, entre 8 et 12.
Fini 7e.
7e.
Donc oui, après, c'est plus le niveau de sa monoplace, son niveau à lui aussi, parce que voilà. Et la stratégie qui fait qu'il remonte. Mais je pense que oui, il a de la chance de. Enfin, son départ, il le vole pas, mais le premier virage, c'est pas qu'il le vole, mais c'est qu'il en profite bien et ça l'aide beaucoup dans la suite du Grand Prix.
L'expérience a parlé, je pense, sur ce coup-là.
Oui.
Il savait, à mon avis, partir dernier comme ça, et hop, déjà il voit un couloir, parce que moi aussi j'ai vu la caméra embarquée, hop, il voit un couloir sur la gauche, il s'est dit parfait, je le prends, personne ne me vient dessus, et comme ça, au premier virage, tout le bazar sera vers l'intérieur. Et si la piste est bouchée, de toute façon, il y a l'échappatoire bien goudronné. Hop. Voilà.
Et une bonne efficacité de la voiture. Même par rapport à Button, qui a eu une course sans être mauvaise, mais plus moyenne.
Ouais, on sent quand même Alonso plus à l'aise sur la voiture cette année que Button, j'ai l'impression. Ouais, voilà, c'était du Alonso, j'ai envie de dire, on n'en attend pas moins d'un double champion du monde de son calibre.
Finalement, si la voiture fait encore des progrès l'an prochain avec la nouvelle réglementation, il va peut-être finir par l'aimer, la F1, en effet. Parce que Fab dit, Alonso, il serait vraiment agréable s'il passait pas le temps entre chaque Grand Prix à se plaindre de la F1. C'est vrai que...
Mais après, je veux dire, on peut pas reprocher à Alonso de se plaindre de la F1 quand nous-mêmes on trouve plein de défauts à la F1 actuelle. Ce serait quand même.
Mais lui se plaint de la F1 quand il est pas en lutte pour
Je sais pas, je pense que honnêtement, je pense que bon, Il a compris que, il a clairement assimilé que les premières années chez McLaren, ce serait très rude. Je pense qu'après, une course comme la Malaisie, où il doit dépasser, où il se passe des trucs, il arrive, il fait quelque chose, il prend du plaisir, je pense que, actuellement, c'est, je pense qu'il en demande pas plus, quoi. Et effectivement, après, s'il doit, je me mets à sa place, s'il doit pas prendre de plaisir à faire des courses, pas intéressant, quoi. J'ai pas l'impression que gagner à tout prix soit son seul objectif. Surtout en étant chez McLaren, faut être honnête.
Et parce qu'on fait la remarque sur le chat, c'est vrai que c'est la première fois depuis Monaco qu'ils mettent deux voitures dans les points.
Ah oui, quand même. Après, je pense qu'il y a des fois, bon, je le dis un peu au hasard, mais je pense qu'il y a des fois, c'est plus joué à la fiabilité qu'à la performance. Mais bon, la fiabilité peut être un paramètre de performance.
Alors là, Fab précise sa pensée. Il dit, il lui reproche pas de se plaindre. Après tout, il peut avoir des raisons de se plaindre. Il lui reproche de se plaindre. Il met bien en majuscule tout le temps. Voilà.
Bah, après, ça reste Alonso, ouais.
Messieurs, on passe au... au vainqueur du classement ?
Ouais.
Le vainqueur de la course, vous l'aurez compris. Donc, 63 votes positifs, 1 vote négatif.
Bon. Pourquoi pas ?
Peut-être que Max Verstappen a voté, je sais pas. Et donc, qui, ça y est, il l'a remporté, sa course de cette année. Hein. Il avait pas trop apprécié ce qui s'était passé en Espagne. Là, il a pris un peu de sa revanche. Avec, en effet, ce moment qui... Pour le coup, il n'était pas encore pour la victoire, mais ce moment où Verstappen voulait passer et où il a fait une très belle défense.
Il a fait une très très belle défense.
Très très belle défense.
Il y a Verstappen qui a débarqué en disant « Moi, je vais passer devant toi » et il y a Ricardo qui a fait « Non, non, non !»
Non.
C'est pas fait
et ce n'était pas pour la victoire à ce moment-là.
Non.
Alors par contre, moi je trouve que paradoxalement, c'était pas très malin de sa part à ce moment-là du Grand Prix. Parce que je pense que Verstappen, encore une fois, avait des chances de se trouver en tête à un moment donné de la course et Ricardo lui faisait perdre du temps. Donc je trouve que là, il a... Alors Red Bull aussi a eu tort, je pense, de ne pas donner de consignes à ce moment-là, puisqu'ils avaient quand même un mince espoir de mener la course. Après, effectivement... Quand...
En les faisant même rentrer en même temps, hein, histoire de ne pas se mouiller.
Après, quand ils les font rentrer en même temps, ils ont pas trop le choix. Je veux dire, ils peuvent pas. Ils savent très bien que c'est risqué de les laisser tous les deux en piste, parce qu'à ce moment-là, Ricardo a des pneus très usés, et s'il fait un autre arrêt, il peut se faire passer par Rosberg. Et s'il faut rentrer un des deux, il pénalise forcément celui qui rentre pas. Donc oui, la meilleure solution était de les faire rentrer tous les deux. Mais ce que je reprocherais à Red Bull, c'est de ne pas avoir agi pour demander à Ricardo de laisser passer Verstappen.
Ouais, Ricardo est très gentil, mais je sais pas s'il aurait accepté les consignes d'équipe. Hein.
Je pense que là, tu avais droit à un gros bip à la radio en disant « Vous m'avez foiré Monaco,
non, attends,
vous m'avez
là,
foiré l'Espagne. »
On jouait pas la victoire.
Oui,
mais
non, justement. Pas la victoire à ce moment-là.
Mais après, je sais pas si dans le feu d'action il a le temps d'y penser, mais un pilote doit tout le temps. Enfin, il doit avoir en tête qu'il a qu'une voiture devant lui et ça peut très bien se transformer en bataille pour la victoire, une bataille pour une seconde place.
Oui, mais faut pas oublier qu'à Hockenheim, l'inverse s'est produit. On a demandé à Verstappen de laisser passer Ricardo. Il y avait qu'une voiture devant. Ils étaient pas sur la même stratégie. Verstappen a laissé passer. Moi, j'aurais pensé. Que l'inverse se produirait ici en Malaisie.
Oui, moi je t'avoue
mais
que là,
effectivement, c'est un bon coup de
qui n'est pas donné de consigne à ce moment-là. Moi, ça me surprend pas du tout. Par contre, moi, ce qui me surprend, c'est que à la seconde où Hamilton abandonne, s'arrête, qu'il paye de consigne de Red Bull en disant on fiche tout de suite les positions, quoi. On prend pas le moindre risque de pas assurer un doublé. J'ai été très surpris en fait. Parce que dans la position de Red Bull, autant je veux dire dans la position de Mercedes que tu fiches pas les positions, c'est normal quoi, ils sont seuls devant. Là, tu l'assures à mort le doublé. Surtout quand il y a une Ferrari qui est hors course. Parce que là il marque gros Red Bull au championnat constructeur. Hein.
Oui.
Oui, c'est vrai que là c'est un break.
C'est un vrai break. Donc bon.
C'est vrai aussi, c'est vrai aussi.
Ils ont même réussi à empêcher Mercedes d'être titré. Oui. Pour vous dire le nombre de points qu'ils ont marqué.
Truc sur lequel on n'aurait pas parié.
Oui.
Truc sur lequel on n'aurait pas parié samedi matin. Hein.
Non, c'est sûr.
Et pour la petite anecdote, Ferrari. Ferrari ne peut plus mathématiquement être champion.
Waouh.
Ah bon, oh mince.
Comme les pilotes Ferrari d'ailleurs.
Oui.
Waouh, surprise.
Disons que Red Bull a eu l'occasion à deux reprises de donner des consignes qui auraient été justifiées et on va dire intelligentes et qui ne l'ont pas fait à leurs risques et périls. Ils auraient voilà. Mais au final, ça s'est bien passé. Et Ricardo a,
oui,
on va dire, a eu le, comment dire, le, oui, il a eu l'instinct, le nez creux de se défendre. Parce que finalement, ça lui a permis de gagner. Et c'est d'ailleurs un petit clin d'œil, j'y ai pensé, mais j'y ai pensé encore plus avec Weber sur le podium. C'est que, effectivement, 3 ans et demi après, un Australien chez Red Bull, alors que il y a 3 ans et demi, un Australien chez Red Bull s'était fait piéger par le fait que son équipier n'avait pas respecté les consignes. Et bien là, c'est un Australien de chez Red Bull qui fait en sorte que des consignes ne viennent pas lui faire perdre la course.
Et puis il faut reconnaître que Ricardo fait un très très bon très très beau vainqueur. Ah, quand il est content, oui, c'est communicatif chez lui. Hein.
Oui, par contre, ça devient un petit peu dégueulasse hein, quand il gagne.
Ah,
quand il monte sur des podiums. Il faut, pour le bien de la communauté, il faudrait empêcher Ricardo de monter sur les podiums.
Avec ses chaussures.
Là, c'est surtout ça. Pas, tu ne l'empêches pas de monter sur le podium, tu lui fais enlever ses chaussures avant. Mais il y en a un qui s'est mort les doigts d'avoir Rosberg sur le podium. Qui lui fait, après qu'il ait fait boire à Horner, t'as Rosberg, je ne sais pas si vous l'avez vu, qui fait signe en direction de Verstappen.
Mais même Verstappen,
Ricardo,
non.
Et après, du coup, Ricardo...
Au début, ça commence très cool. Tu vois Rosberg qui met même un peu de champagne dans la chaussure. Tout le monde se dit, oui, ben c'est bon. Et après, c'est quand il commence à faire tourner qu'il commence à faire un peu la gueule. Ah ouais, oui. Puis en plus, avec la chaleur qu'il y a eu en Malaisie, vous imaginez comment ça a dû macérer dans la chaussure.
Et par contre, très très belle réaction de Weber qui prend la godasse et qui la balance.
Ouais, voilà.
Pour pas se faire piéger. Il s'est fait avoir une fois.
Ça suffit tes conneries.
Voilà, ouais.
Oui.
Il s'est fait avoir une fois, pas deux. Mais voilà, très très belle course de Ricardo.
Qui, là, prend une grosse option pour la troisième place du championnat. Hein.
Je vais pas regarder le classement pilote, mais oui, certainement.
Ça, de toute façon, on va bientôt l'aborder. Ah, d'ailleurs, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur la course de Ricardo?
Bah non, on a parlé de sa défense, on a parlé d'Verstappen, et puis sur la victoire, bah, il n'y a plus rien à dire.
Il n'y a plus rien à dire. Ouais. C'est comme souvent, il est...
Mais c'est sans faute.
Disons que c'était assez transparent jusqu'à la mi-course, quoi. Même un peu après. On faisait pas trop attention à lui et bataille avec Verstappen et ça devient la bataille pour la victoire. Donc
c'est surtout qu'après les qualifs, il a dit qu'il était bien content d'être en deuxième ligne parce que même s'il était derrière Verstappen, il était content d'être en deuxième ligne parce que au vu du vendredi, c'était pas gagné d'être devant les Ferrari Citroën. Alors repartir avec un doublé Red Bull et en plus une victoire pour lui, ça doit être au-delà de ses espérances sur ce week-end en tout cas.
Oui, c'est la fête.
Au classement du SAV, eh bien, Ricardo, quand même, il aligne quand même pas mal de bons résultats en ce moment, au point que bah, il est en tête, et qu'il a une belle tête, puisque Ricardo est premier avec 67 points, devant Rosberg, 43 points, Fernando Alonso, comme quoi avec sa McLaren, est à 37 points, devant Verstappen, 34, Grosjean et Vettel sont à 26, Hamilton, 7ème avec 24 points, Raikkonen 21, Perez 20, Hülkenberg 14. Au niveau des constructeurs, c'est parce que j'ai réparé un peu en partie le fichier Excel, donc j'ai le classement constructeur. Les Red Bull est devant avec 108 points, devant Mercedes 67, McLaren 51, Ferrari 47, Force India 34, Haas 26, Renault 16, Williams 13, Toro Rosso 12, Manor 11 et Sauber 0. Dans l'autre classement...
Attends, juste, je t'interromps, excuse-moi Shinji, est-ce qu'il y a un titre qui est décroché dans notre classement ou pas?
Alors le titre pilote, non, parce que même avec 24 points, il reste 5 courses, donc 5 x 9...
Allez,
45.
Et donc le constructeur aussi.
Constructeur, oui, il y a... Sans compter, oui, il est possible pour un bonus. Même si, il faut admettre que bah il y a quand même une belle petite avance pour Ricardo, qui commence à se construire, et pour Red Bull. pour les deux titres. Donc rien n'est joué.
J'avais du mal à voir.
Mais un petit match.
À voir Ricardo champion.
Dans l'autre classement, donc Nico Rosberg est devant avec 288 points. Il a 23 points d'avance, on l'a dit, devant Lewis Hamilton, 265. Comme tu l'as dit, Bilon, hein, Ricardo est à 204 points. Il est sans doute bien solidement fixé à la troisième place, hein, puisque Raikkonen est quatrième avec 160 points. Donc il y a 44 points de retard. Sur 5 courses, ça commence à faire un joli matelas. Vettel est 5e avec 153 points. Verstappen est à 147. Et pour être tout à fait honnête, je serais pas surpris que Verstappen finisse par doubler les pilotes Ferrari d'ici la fin de saison.
Ouais. C'est possible.
C'est possible. On va dire possible. Bottas est 7e avec 80 points. Perez, 74. Hülkenberg, 50. Alonso, 42, juste devant Massa qui est à 41. Et juste à noter hein, qu'il y a 19 pilotes qui ont marqué des points, puisqu'on a Palmer, Van Dorn et Wehrlein qui terminent avec un point. Et dans le classement constructeur, donc. Attendez. Le classement constructeur, Mercedes n'est donc pas encore championne constructeur. Ils ont marqué 553 points. Et là, je pense qu'au Japon, quand même, c'est bien. À force, ça devrait être bon au Japon. Red Bull 359, Ferrari 313. Donc là encore, dans la lutte pour la deuxième place, on l'a dit, mais Red Bull a fait une très très belle opération. Force India est quatrième avec 124 points devant Williams 121. Là encore, des belles batailles qu'on va avoir pour la fin de saison. McLaren est sixième, 62 points. Toro Rosso 47, Haas 28, Renault 8 et Manor 1 point. Messieurs, je vous propose de passer aux faits marquants.
Oui.
Et donc, il y a 2 semaines, pour le Grand Prix de Malaisie, vous pouviez choisir le fait marquant. Vous avez été 67 à voter. Merci à vous tous.
Le Grand Prix de Singapour, par le Grand Prix de Malaisie.
Singapour, oui.
Shinji.
Ah, mais il y a 2 semaines, c'était le Grand Prix de Singapour.
Ben oui, tu viens de dire pour le Grand Prix de Malaisie.
Ah.
Oui, on a Shinji qui sort d'hibernation parce que
pourtant je pensais bien Singapour, je sais pas pourquoi j'ai dit Malaisie.
Le Shinji hiberne l'été lui.
C'est qu'à 4G, il a pas bien vu, donc il a pas bien vu quel circuit c'était.
Donc vous aviez 3 propositions et est arrivé dernier. Contre toute attente, Rosberg contient Ricciardo, 22%, 15 votes. Est arrivé deuxième. Hamilton grille une de ses dernières cartouches, 33% et 22 votes. Et je crois que c'était ta proposition, Quentin.
Oui.
Ce fut la 37e course la plus serrée de l'histoire de la F1, 45% et 30 votes. Bravo, Quentin.
Merci, merci.
Alors moi, je vais le dire honnêtement, je n'ai pas voté à ce... parce que j'ai trouvé les propositions absolument merdiques. Mais bon, ça c'est mon avis perso. Franchement, les gars, vous manquez de créativité.
Je ne citerai pas Fab
qui est sur le chat. C'était lamentable de ta part, tu m'habitues bien mieux.
Bouchard, j'espère que t'as un fait marquant en or pour ce soir, parce que dire ça avant de proposer ton fait marquant, c'est osé.
Non, j'ai dit que les trois étaient pourris, je veux dire. J'ai pas dit que j'avais quelque chose de bien.
Notons, Quentin, que tu passes à la deuxième place du classement avec un ratio de 40% derrière Scani qui est toujours à 50%.
Oui, mais Scani, s'il participe pas à une autre émission avant la fin de l'année, c'est quand le gros hold-up.
Ouais, c'est ça.
Ah, ben c'est le drama de ce classement.
Je vous avais prévenu. Il faut mettre un coefficient par rapport au nombre de participations parce que c'est sûr que moi je me fais flinguer.
Mais c'est un coefficient, c'est un ratio, le nombre de victoires par le nombre de participations.
Non, mais ce que Bouchard veut dire, c'est moins tu participes, moins ton chiffre a de la valeur. Et donc, faut mettre un coefficient en fonction de ça, c'est ça?
Voilà, ouais.
Mais c'est pas drôle.
Mais non. Les gars, vous avez signé, vous avez accepté les règles, non? C'est la stratégie.
Non. On n'a pas signé, on n'a pas accepté les règles. Dans le bon fonctionnement du SAV, on nous a imposé les règles. C'est dictature.
Oui, c'est pareil. C'est le SAV.
C'est une dictature à plusieurs, c'est pour ça que c'est le bordel. Mais...
et Scani, calme-toi. Scani, sur le chat, dit « Je suis le dieu et c'est tout hein. ». Je te rappelle que techniquement, le meilleur ici, c'est Julien Febro.
Voilà, donc s'il te plaît, poète.
Alors Quentin, tu vas être le dernier. Oui. Bouchard-Bilot, vous étiez pas là il y a deux semaines.
Non.
Là, ça se joue au classement.
Alors, c'est ça, se joue au classement.
Alors, Paul Honor,
Bouchard et c'est moi, Bilot, Bouchard et Quentin.
Quoi, t'as fait un moins bon score que moi?
Mais moi, en 7 participations, j'ai 0 victoire.
Bravo.
Je ne sais pas, moi qui. Cette année, je sais pas ce qui se passe. Pourtant, les années précédentes. Là, je sais pas.
Ah oui.
Je suis comme Vettel, je sais pas, je comprends pas cette année.
J'étais persuadé que je choisirais en premier.
Alors, je vais choisir. Je vais dire Hamilton, 2 points. Son moteur part en fumée, virgule. Son titre aussi, point d'interrogation.
Voilà, vous voyez, prenez des leçons, les gars. Voilà ce que c'est, un truc très bien formulé.
Moi j'avais. Pourquoi le moteur d'Hamilton, point d'interrogation? Il a fait un malaise.
Oui, mais non.
Ouais.
Non. Mais je sais. C'est pas grave, heureusement j'en avais un autre. Alors, moi c'est Vettel, 2 points. Buvet, éliminé.
Voilà, attends, j'ai pas compris.
Mais est-ce que tu es trop jeune?
Genre, à mon avis, il a pas compris non plus. Bouchard.
Mais c'est parce que vous regardez.
Je connais.
Cube de flotte.
Oui, c'est. Mais c'est le pourquoi le buvet en fait.
Ça je comprends pas. Non.
Parce que c'est voilà, c'est buvet éliminé. Mais bon, éliminé, voilà, on comprend.
Ouais, mais du coup.
Éliminé EZ, éliminé ER, éliminé AIT.
Ça doit pas être AIT. Je vais chercher. Mais... mon avis, c'est EZ. Mais... attends.
Et c'est ça le truc, c'est que je connais très bien, je me souviens très bien du slogan, mais c'est que je vois pas le rapport en fait avec le éliminé.
Il s'est éliminé,
oui, quoi.
Non, mais du coup, ce que je dis, c'est justement l'éliminé, je le comprends tout de suite, mais le buvet qui avant, c'est là où.
Mais c'est très bien, c'est très très bien.
Quoi, tu penses que tu vas gagner?
Bah oui.
Non, mec, t'as 0%, tu vas gagner.
Parce que du coup, il faut que je trouve quelque chose.
Vettel, pardon, 2 points, buvet EZ, virgule, éliminé EZ.
Et nous confirme, c'est bien EZ. Bouchard.
Ah ben moi, je vais le faire sur Ricardo. Donc ça va être Ricardo, 2 points.
Non, Ricardo, 25 points, pas 2 points.
Ah si, alors, ça y est, j'ai trouvé. Ça vaut ce que ça vaut, mais ce sera Ricardo, 2 points. Belle passe d'armes pour faire une belle dédicace.
Je n'ai pas compris.
Bah si.
Parce qu'il a dédié la victoire à Jules Bianchi.
Ah, c'est vrai.
Oui, c'est vrai.
On l'a pas dit, mais c'est vrai qu'il a...
Ah, regardez-moi ça, il va jouer sur le cœur des gens, l'émotion des gens par rapport à...
Mais vous avez réussi, tu commences enfin à comprendre le principe du marquant.
Il n'y a aucune pitié dans ce truc.
Oui, mais franchement, je pensais qu'on aurait un peu plus de déontologie que ça.
Pour moi, le vrai fait marquant de ce Grand Prix...
Après les trois qu'on vient de dire. Après les trois,
assez médiocres, je l'ai à dire, mais... le vrai fait marquant, c'est le retour de Shinji, mais je pense que...
tu ne vas pas nous faire une Jackie.
Non.
Si, physiquement, ça ne va pas être possible.
En plus, je suis foutu de perdre deux fois à cause de ce...
Chers auditeurs, Shinji a été trop sûr de lui dans cette histoire. Il mérite une sanction.
Mais quoi, sûr de moi? C'est limite, j'ai pas imploré la pitié des gens en disant que j'ai pas gagné depuis le début de saison.
Ouais, mais là, t'étais sûr de ton fait marquant. T'as dit, ouais, c'est bon, laisse comme ça, je vais gagner. Les gens écoutent.
Non, mais c'est vraiment à moi en plus?
Ben oui.
Oui.
C'est comme aux cartes, c'est toujours au con qui demande.
Non mais pour le coup Attendez, ouais, mais c'est en pleine réflexion là.
Ah, vous le voyez pas, mais moi je le vois, il pédale dans l'air.
Ouais.
Je sais pas, fais-le sur. Je te donne des idées, fais-le sur Grosjean, Gutiérrez, des trucs en.
Ouais.
Raikkonen, oui.
Palmer,
je vais faire sur Palmer.
Ah,
en espérant que l'esprit SAV sorte, mais.
Non, Palmer et esprit SAV, ça marche pas. Je te dis tout de suite. Raikkonen, oui. Rosberg, oui. Mais.
D'ailleurs, Palmer et esprit, ça marche pas.
Même Bottas, t'as plus de chance qu'avec Palmer.
Mais même sur Palmer, j'ai pas d'idée de formulation.
C'est sur Rosberg. Il y a des trucs à dire.
Oh là là, je sais pas, c'est terrible ce moment de je sens qu'il va y avoir un peu de,
ça, c'est
de
mal
montage
préparé,
sur cette partie,
ça.
Mais ah, mais c'est pas préparé du tout, c'est pas que c'est mal préparé, mais
tu vous croyais qu'on les prépare, les frères?
T'aurais dû préparer 4 faits marquants. Ben moi je les prépare, bon, le résultat suit pas, mais
la prochaine fois tente de ne rien préparer, tu feras peut-être quelque chose de mieux.
Il y a des très jolies propositions sur le chat.
Palmer, virgule, pas mal, voilà. Contrairement à mon fait marquant, voilà, mais j'assume totalement, parce que il faut bien mettre fin et passer au drive-through, parce qu'on en a pour la soirée, sinon pour la nuit même.
À noter sur le chat, on avait Red Bull, Bison Futé, Chassé Croisé, Fab qui dit Jolioff est devenu Jolion.
Oh, joli.
Pourquoi Palmer sous le palier du top 10.
Pourquoi Fab il fait pas des propositions comme ça quand il est dans l'émission?
C'est la pression.
Moi, c'est surtout que j'aurais pensé Rosberg, 2 points, touché mais pas coulé, mais...
Donc, pour le fait marquant du Grand Prix de Malaisie, vous aurez le choix entre Hamilton, son moteur part en fumée, son titre aussi, ou bien Vettel, buvé, éliminé, ou bien Ricciardo, belle passe d'armes pour faire une belle dédicace, ou bien Palmer, pas mal. Comme d'habitude, hein, vous pourrez voter sur la page d'accueil du SAV de la F1, c'est dans la colonne de droite, oui c'est la droite, je ne me trompe pas, ou dans l'article du podcast. Voilà.
Alors je précise, Fab dit Bouchard, je note que tu dis rien sur la personne qui est dans la même pièce que toi, alors que tu pourrais le frapper. Je précise qu'il a quand même levé la main sur moi tout à l'heure.
Ah non, mais quand il a,
oh,
il a failli, j'avais armé la baffe, hein, je te dis, je te rassure. D'ailleurs, je sais pas, vous avez peut-être dû l'entendre, mais c'est tout de suite interrompu.
En fait, c'est pas que j'ai cherché mon fait marquant, c'est juste que j'étais sous la menace.
Et pour ouvrir le drive-thru, bien évidemment, quelques mots de Julien.
C'est pas possible. C'est pas possible, ça. Ça, c'est non, mais c'est inconcevable.
Ça, c'est la bestie,
Julien.
C'est pas possible. C'est pas possible.
J'aime ce bruit de délutition au début de la phrase.
Ouais, moi.
Tu sens qu'il manque de s'étouffer, en fait.
Ouais. Messieurs, avez-vous des drive-thru?
Oui.
J'en ai toujours un en stock. Au cas où je serai à court pour tout.
Bah, c'est très bien. Bilo, il en a toujours plein. Ça qui est bien, c'est que quand vous en avez pas, vous savez que Bilo, il en a toujours plein.
Mais ils sont pas forcément bons.
Ah, mais on les juge pas, ils sont pas notés.
On a tout vu, tu sais.
Donc, je commence.
Ben, ah, ouais, oui.
Alors, j'en ai un, bon, c'est un détail, mais en fait, ça fait un petit moment que j'entends ça chez les commentateurs et les consultants de canal, et même certains autres acteurs de la F1 qui veulent à chaque fois lire entre les lignes ce qui ne doit pas forcément être lu entre les lignes. Quand Rosberg fait une déclaration, qu'est-ce qu'il a dit, enfin, je sais plus, il a dit un truc et on reprend en disant voilà, c'est une bataille psychologique, il a dit ça parce que ah oui, c'est parce que Hamilton avait dit qu'il voulait apprendre d'autres langues et du coup Rosberg avait dit pourquoi pas l'allemand, et là on se dit ah, c'est une bataille psychologique, etc. Alors, c'est un exemple parmi d'autres, mais plein de fois, à chaque fois que les pilotes Mercedes parlent, en particulier, tout de suite, ça veut essayer de monter en épingle, en disant « Ah ouais, c'est psychologique, c'est pour déstabiliser, etc. » Alors que non, il faut arrêter de voir d'autres degrés dans les déclarations des pilotes. C'est bon, Hamilton, il dit « Tiens, je vais manger un hamburger ce soir, ça n'a pas de connotation, quoi. Ça veut pas dire.
Il va partir chez As.
Ouais, voilà. Ça peut vouloir signifier, oh là là, ça veut dire qu'il peut se permettre de prendre du poids et d'être quand même plus rapide. C'est un gros tacle et tout. Non, faut arrêter. Enfin, voilà. À chaque fois, ça ajoute une atmosphère un peu pénible où on aimerait bien se concentrer sur le sport plutôt que sur les déclarations médiatiques qui sont tellement policées qu'à chaque fois, les gens veulent essayer d'interpréter ce qui ne doit pas être interprété. Mmh. Voilà.
Et ça, c'est vrai que ouais, souvent, ça monte en épingle des trucs. Hein. De mon côté, j'ai pas de drive-through sur la course. Je reviendrai sur un truc qu'on a déjà parlé avant la course, mais c'est quelque chose sur les essais. C'est en effet cette histoire de tenue des équipes lors des essais libres, la F1, ça peut être dangereux, même le vendredi. Voilà, je vais pas revenir très longuement parce que si vous écoutez l'émission d'avant-course, hein, voilà, faut souhaiter que la FIA fasse quelque chose. Voilà, c'est dans toute cette discussion qu'on a eue sur la sécurité des gens autour de la voiture, ça doit en faire partie.
C'est bien de rêver, Shinji.
Mais on sait jamais.
Ah oui, tu vois, c'est jamais. C'est comme moi, je peux rêver qu'un jour on ait un réalisateur compétent aux manettes qui nous montre ce qui se passe en piste quand il se passe quelque chose en piste, qui nous montre des trucs où il se passe rien à l'instant. C'est mon drive through parce que. C'est là où Quentin a compris ce que c'était de me voir devant la télé et me pester contre le réalisateur.
Mais en plus, moi, je me demande, mais le pilote à l'écran ou l'équipe a fait quelque chose de mal, mais non, c'est juste le réalisateur. Mais moi, je comprends pas, je peux pas le dire directement, alors je me demande ce qui se passe.
Ah, mais moi, il y a des moments, mais pendant la course, ça m'a mis en rogne, quoi. C'est encore une fois. Mais je sais plus d'ailleurs qui a tweeté. Je crois que c'est Dino ou Gus qui ont tweeté parce qu'ils sont très actifs pendant la course sur Twitter. Mais qui disait, c'est ça, allez, montrez-nous le machin qui fait rien plutôt que de montrer les voitures qui se bataillent en piste. Voilà. Encore une fois.
Nasser qui se passe une serviette sur la tête.
Ah oui, c'est ça, Nasser qui se passe une serviette sur la tête. On s'en fout aussi qu'il a abandonné, mais c'est Nasser, quoi. À la limite, nous montre à mi-temps qu'il revient des stands, qu'il revient dans le paddock, après ça casse. Ça a une certaine image, c'est le mec qui était en tête qui a abandonné. Nasser qui abandonne, on est habitué tous les week-ends, quoi. Hein, grosso modo. Bon, voilà, c'est parce que j'ai pas vraiment de drive-through contre pour la course. Donc je ressors mon joker permanent.
Faudrait compter le nombre de fois que t'as infligé des drive-through au réalisateur.
Ouais, d'un côté, c'est mérité. Hein.
Oui.
Ah, il y a Barfapi sur le chat qui dit il aime bien les plans panoramiques où il y a des spectateurs qui empêchent de voir les voitures.
Mais oui, c'est pour me faire croire qu'il y a beaucoup de monde en train de regarder la course. Alors qu'apparemment, les tribunes étaient quand même pas pleines. Hein. Mm.
Quentin ?
Non, j'ai pas spécialement un drive-through à infliger sur cette course. Enfin, mis à part les commissaires, mais on en a parlé surtout dans le dernier Grand Prix, donc je pense pas que ce soit la peine de revenir dessus. Il y a eu des articles écrits entre-temps et même des pétitions qui circulent, donc donc je pense que sujet a été assez approfondi.
Non, par contre, en parlant de commissaires, je pense plus aux commissaires de piste qui ont bien bossé, quoi. Je trouve c'était intervention rapide avec une utilisation de la virtual safety car appropriée, même si on regrettait quand même que il y ait pas que la vraie safety car sorte pas pour réduire les écarts, mais au moins ça fait on voit que ça laisse place vraiment au sport parce que ça fait des interventions moins longues d'utiliser la virtual safety car. Rallonge pas inutilement. Et avec des interventions des commissaires, ils sortaient les voitures vite, quoi. Parce que pour Hamilton, ils ont vite sorti sa voiture, sachant que derrière, qu'il y avait le pneu de la roue de Gutiérrez, plus sa voiture a dégagé aussi dans la foulée.
Ah, alors, Redscape, sur le chat, il dit qu'il en a marre que Villeneuve dise arrêt au puits, et que ça lui donne envie de le frapper. Mais ça a son charme, c'est l'expression au Québec. C'est du français, hein.
C'est du français, contrairement à un arrêt au stand, c'est de l'anglicisme.
Et oui.
C'est un anglicisme, il faut le dire, hein. C'est du français.
Villeneuve est dans le vrai.
Il est québécois.
Alors, McLaren, là, je suis d'accord. Mais comme je dis, c'est normal. Il y a plein de mecs chez McLaren.
Voilà, mais ça m'agace plus, par exemple.
Oui, ça m'agace plus aussi.
Voilà,
aussi.
Des femmes carrément, un nom historique, quoi.
Oui, mais comme les Kevat, hein. Moi, je vous l'ai déjà dit, ayant fait du russe, je sais pas où est-ce qu'ils mettent un truc entre le K et le V, mais...
Oui, j'ai demandé aussi à ma grand-mère, ma belle-mère, qui a quelques origines...
Non, KV, Gviat. Bilo, est-ce que tu as quelques drive-throughs?
Alors, non.
Sors la pile, non?
Non, je... Non, c'est bon, je vais m'en contenter. Je pense que mon premier drive-through était bon, donc on va rester sur une note positive.
Et Fab, sur l'histoire des puits, qui dit que quand même, quand il était sur Fan F1, puis à la place de stand, eh ben, ça sauvait des résumés.
Bah oui,
trouver des synonymes, essayer de pas se répéter, c'est pas évident. Ou alors j'essaie de transcrire Verstappen. Ouais, ça doit être ça, je suppose. Puis ça doit plutôt être Verstappen.
Il dit pas aussi, il dit aussi. Je sais pas si vous avez remarqué, tant qu'on est sur Villeneuve et ses petits types de langage, je pense que ça peut nous faire
non,
la soirée.
C'est deux mots, il veut dire truc ou autre chose, tu vois.
Non.
Si, si. Si, c'est contre... pas un arabe non plus. Ouais, ouais. Si, ou si.
Par contre, pour avoir vu l'émission Inside Canal Plus, on a vu qu'apparemment, il faut se cotiser pour lui acheter une chaise pour commenter les Grands Prix.
Ah, mais
ah,
ça,
oui,
les.
J'ai pas vu, ça fait
oui. C'était ouais, je sais plus, c'était quoi l'émission. Ouais, alors c'était pas un long documentaire, c'était quoi, c'était un sujet d'une dizaine de minutes. Ouais, tourné à Monza.
15 minutes. Mais moi d'ailleurs, ouais. Je regrettais que ce soit pas plus long, parce que ça m'aurait été
vraiment, oui, parce que, ouais.
Vraiment comment ça marche, parce que là tu survoles vraiment le sujet. Mais
ouais, mais c'était que... sympa, il y avait des trucs sympas, ouais. De voir la petite caméra qu'ils ont programmée de Paris dans la cabine, qui est pas très grande, mais ça c'est pas une surprise, hein. Les cabines de commentateurs, c'est toujours des trucs
Ah, et tu
assez
vois
compact.
Que Febro et Villeneuve côte à côte, ils ont pas beaucoup de place, hein. C'était quasiment les épaules qui se touchent. J'étais surpris aussi qu'ils tiennent à la main leur micro, quoi. Pendant toute la course, je pensais que c'était
mais...
des micro-casques ou des trucs comme ça, mais même pas, non.
Mais des fois, ils ont des nouveaux micro-casques. Oui. Je sais pas, c'est peut-être aussi en fonction de la configuration
de la cabine.
De la cabine, quoi, ouais.
Si elle est plus ou moins sonorisée, ce genre de choses.
Suivant le circuit, genre les moyens qu'ils mettent dans les cabines, enfin bon.
Ouais. Et 10 écrans devant eux, ils ont 10 écrans.
Ouais. Et des papiers.
Et un mur d'anti-sèche.
Et un mur d'anti-sèche.
Et c'est dans le cadre de quelle émission que on a pu voir ça.
Un truc comme ça, je sais plus comment.
D'accord. J'ai pas encore vu, moi.
C'était un truc qui était samedi à 14h30, si vous cherchez sur la grille.
Non, dimanche.
Dimanche, oui, pardon. Dimanche à 14h30.
Voilà, pour que nos auditeurs puissent regarder.
Eh bien, c'est tout pour les drive-throughs. Ah, eh bien, donc on arrive à la dernière partie de l'émission.
On l'attend, celle-là.
Nous étions donc ce dimanche le 2 octobre. Alors, au niveau des naissances et des décès, pas forcément des grands noms, on peut quand même noter des pilotes comme Giorgio Scarlatti, qui est né en 1921, ou Nanni Galli en 1940. En décès, peut-être un nom qui parlera plus, c'est Olivier Jean Debien, pilote belge, qui nous quittait en 1998, alors qui n'a pas forcément fait une grande carrière en Formule 1, mais c'est quelqu'un qui a gagné plusieurs fois Le Mans, ainsi que la Targa Florio, donc voilà, quand même un pilote qui a gagné des choses. Hein. Donc, au niveau des Grands Prix de F1, outre ce Grand Prix de Malaisie, il y a eu un Grand Prix d'Espagne en 1988, il y a aussi eu un Grand Prix des États-Unis Est, alors que je ne me trompe pas, ça devait être... Ah oui, c'est ça, à Watkins Glen, remporté par James Hunt. Nous avons aussi un Grand Prix des États-Unis qui n'était pas Est ni Ouest, mais qui était aussi à Watkins Glen, remporté par Jim Clark. Et alors, bon, vous le savez, ce Grand Prix de Malaisie a quand même été marqué par le 300e Grand Prix de Jenson Button. qui n'est pas rien. Ce qui est loin d'être rien. Il n'est que le troisième pilote de l'histoire à faire plus de 300 Grands Prix. Puisque Michael Schumacher s'est arrêté à 307 et Rubens Barrichello est à 323. D'accord ? Et donc, pour ce coup d'œil dans le rétro, j'ai eu envie d'un petit jeu, un très classique. Comme je disais à mes compères avant le début de l'émission, c'est un back to basics. Hein, j'ai repris la liste du nombre de grands prix par pilote.
On va devoir les citer, les 300 grands prix de Jenson Button.
Oui,
non. Vous n'allez pas devoir chercher. J'ai pris tout simplement la liste des pilotes par nombre de grands prix disputés. Alors, quelle limite fixée ? Forcément, elle est arbitraire.
5.
À 5, ça vous ferait quand même beaucoup de choix. Hein. J'aurais pu vous choisir 100, mais ça faisait quand même encore beaucoup de choix. Hein. Quoique, à la limite, je peux vous laisser choisir. Je peux vous laisser parier. Moi, écoutez, j'ai pris la barrière de 153.
Ah bah oui. C'est une bonne barrière.
Ah. Ah bah oui.
Sachez qu'il y a 34 pilotes dans l'histoire de la F1 avoir disputé plus de 153 Grands Prix.
Est-ce qu'il y en a à 153 ?
Alors Shinji, attention parce que tu prends un gros risque parce que la barrière 153, c'est une barrière qui se saute facilement. Ouais. Je dis ça, je dis rien.
Donc 34, en dehors des 3 que j'ai cités, bien évidemment, qui sont à plus de 300. Bah non, c'est trop facile. Bah si, Amy, je peux vous le dire, vous êtes 3.
Oui.
Donc en fait, vous allez devoir me trouver tous les pilotes qui sont entre 153 Grands Prix et 300 Grands Prix. Finalement.
D'accord.
Hein, tout simplement. Alors, pour l'ordre, on va faire par ordre alphabétique des pseudos. C'est le plus simple. Donc on va dire Bilot, Buchor, puis Quentin. Et puis parce que bon, quand même, c'est pas très dur ce soir, hein, le quiz en deux ce soir, hein, faut bien le dire.
Ouais, ça va être chaud à la fin, je pense.
Ah, je pense, ouais, comme d'habitude. Je pense un droit à l'erreur. Ouais, un droit à l'erreur.
Cette barrière de 153 suscite des réactions pour le moins... tordu sur le
posé. Tête.
Oui.
Donc Bilo, c'est à toi.
Ouais, je vais te faire plaisir. Je vais citer Kimi Raikkonen.
Tout à fait. Une petite idée du nombre de grands prix. Alors, bien évidemment, je cite parce que comme vous voyez en podcast et qu'il y a des gens peut-être qui ont trop différé, évidemment, ce sont les chiffres après le Grand Prix de Malaisie 2016. Ouais.
Alors, le chiffre ou la...
C'est juste pour le... C'est rien, on compte pas les points. C'est juste, si t'as une idée.
Ouais, bah attends, je réfléchis. Il a fait combien de 9, 10 fois 20... Je sais pas, 235.
Ah, t'es pas loin. Il est à 207.
207 ?
Non, 247.
Ah non, parce que ça a coupé, donc on n'a pas entendu le 40.
Il est à 247. Il est 7e du classement, pour tout vous dire.
Moi, je vais dire Felipe Massa. Je dirais dans les 280. Je crois qu'il n'est pas très loin derrière Button.
Non, moi je pense qu'il est derrière Raikkonen.
Alors, Buchor, tu as raison. Hein, il est à plus de 153 Grands Prix. Il est en effet à 245. Donc, juste derrière Raikkonen.
Oui, ils ont fait le même nombre de saisons.
À peu près.
Vu que Massa...
Après, Massa, il arrive un an après, puis il y a une année où il n'avait pas roulé. Ouais. Et puis lui, il n'a pas fait les 2 années de pause, donc au final, voilà, ça.
Mais lui, il a, fait, une petite... il a fait une petite pause forcée en
oui,
fin de saison.
Tout à fait. Quentin.
Je pense que Nico Rosberg a des chances d'avoir franchi cette barre de 153.
Ah, bah oui, c'était son 200e à Singapour.
Eh oui, voilà. Et donc forcément, il est à 200.
Alors, qu'est-ce que ça fait si je dénonce Quentin qui est en train d'être sur le chat, là ?
Ah non, je note. C'est vrai que je suis sur le chat, mais je l'ai fermé tout de suite.
Ah.
Aucune réponse n'a été donnée sur le chat. Pour l'instant, je le signale.
Moi, je sais pas, je regarde pas le chat.
Mais toi, tu
oui, ça va, il n'y a pas eu de réponse. Bon. Bilo, c'est à toi.
Alors, j'ai un nom en tête, mais il est plus dur à trouver, donc je vais le garder. Et je prendrai facile, donc Alonso.
Tout à fait, Alonso qui est quatrième du classement. Donc, une fois Button parti à la retraite, en tout cas a priori, il est le plus expérimenté. Une idée du chiffre, à peu près.
Reconnaître 247, c'est ça? Donc
oui.
Alonso, il a fait en tout, il doit faire une saison de plus. Donc je dirais 265.
Ah, presque, mais c'est dans ce temps d'idée, c'est 268. Ce qui veut donc dire que la barre des 300 est quand même va pas être passée de nouveau prochainement. En tout cas, pas tout de suite. Bouchard.
Et dans les pilotes en activité, j'ai des doutes quand même. Donc du coup, je vais partir sur ceux qui sont à la retraite. Je vais dire Jacques Lafitte.
Tout à fait. Une idée du chiffre ?
Il doit être autour des 200, non ?
Ah, il est quand même sous les 200.
Ouais, un peu moins de 200.
Il est à 176. Notamment dû à sa longue longévité. Parce que c'est vrai que les saisons étaient un petit peu plus courtes. Pas forcément énormément, mais un petit peu plus courtes. Mais c'est vrai qu'il a eu une longue carrière. Quentin ?
Lewis Hamilton.
Une idée du chiffre ?
Pas si loin de Rosberg, je pense, donc il doit être à 180, non ?
Oui, c'est ça, il est à 183, ouais. Il avait 17 de... C'est une saison, quoi, de différence.
Ah, mais on a cité Rosberg. Ah,
oui.
Putain d'activité. Ah, Hamilton, 183 ?
Oui.
Non, laisse-moi l'autre.
L'autre qui a débuté la même année que lui, Vettel. Même s'il a débuté quelques Grands Prix après, ça reste au-dessus de 150. Donc c'est dans les 160. Il a débuté au Grand Prix des États-Unis. Donc c'était le 7e, je crois. Donc je dirais 176.
Oui, c'est ça. Il est à 173 et il est dans le classement. Il est 25e du classement.
Mais tu vois, c'est sur Vettel que j'avais un doute. Parce que ça me paraissait. Mais c'est vrai que dernièrement, les saisons sont quand même plus proches des 20 que des 15. Du coup, bon, je vais dire Alain Prost.
Oui, Prost qui est à 199. Donc juste sous les 200. Quentin ?
Je dirais pourquoi pas Hakkinen.
Une idée du chiffre ?
Je dirais bien 170, 180 peut-être.
Un petit peu moins, il est à 161, mais c'est une bonne réponse.
Et ça commence à être ouais. Juste.
Il y en a un, j'ai un doute. Je vais aller chez les vieux. Je vais prendre Tard. Du coup, Tard, ça doit être dans les... Putain, lui, il a fait beaucoup de F1. Il a fait quoi ? Il a fait 14 ans, 15 ans. 15 fois 18, ça fait... 15 fois 15, je vais faire pour assurer. Ça fait 225. Donc, je dirais 230.
Alors, Coulthard est bien dans le classement. Et alors, c'est bien simple, puisque Raikkonen est à 247, Massa est à 245, et Coulthard est à 246. Il entre les deux. Bouchard.
C'est la bonne question, ça. Moi, j'ai resté dans les Français. C'est un gros pari que je vais faire. Je vais dire Jean, allez-y.
Ah, Jean. Oui, il a le même nom que Rosberg.
Exactement.
C'est pour ça qu'ils sont interviewés sur Canal, parce que le thème, c'était les mêmes nombres de Grand Prix.
J'ai pas vu l'interview.
C'est celui-là que j'avais en tête. C'était une interview où finalement Rosberg est interviewé, allez-y.
Donc en effet, il a le même nombre de Grand Prix que Rosberg. Jusqu'à dimanche. Prochain.
Peut-être à jamais, hein, on sait jamais. Rosberg peut avoir un accident.
Il s'est tombé à ça quand même. Quentin.
Je trouve qu'il a eu assez de chance cette année.
Jacques Villeneuve, avec une pensée pour notre ami Scani.
Jacques Villeneuve qui est à 163 Grand Prix.
pourquoi il aime pas.
Ah non, au contraire.
Oui, au contraire.
Mais... Julien Febro. Ah non.
Non. Non.
Ouais, Mark Webber.
Oui, Mark Webber qui est 11e du classement avec 215 courses.
Et c'est là où je commence à sécher.
Il reste encore 18 noms.
Mais je... Oui. Et bizarrement, moi, c'est plus les noms un peu plus anciens qui me viennent à l'esprit que des noms récents. C'est pas qu'il finit en histoire de la F1. Je dirais Niki Lauda.
Niki Lauda. Oui, c'est une bonne réponse. Niki Lauda est à 171 Grand Prix. Il en a moins que Vettel.
Les mauvaises langues diront qu'il a moins de titres aussi.
Bon, et qu'il a moins d'oreilles, surtout.
Et moins de cheveux.
Nigel Mansell, pour moi.
Eh bien, oui, Nigel Mansell, 187 Grand Prix. 19e du classement.
Tu ne me laisses plus deviner les chiffres.
Bah, ça dépend, si vous avez envie de deviner ou pas.
Non, non, c'est bon.
Si, bah, toi... Si, toute la génération, en plus, une génération récente. Trulli, il a débuté en 97, il a fini en 2011, donc ça fait 15 ans en tout, 15 fois, bah c'est à peu près comme Coulthard, du coup. Coulthard, c'était combien, 240, combien Coulthard?
246.
Trulli, ça doit être, vu qu'il y a plus de Grand Prix à la fin pour lui, je dirais 250.
Bien, bien visé, parce que c'est 252, il est 6e du classement.
La source se tarie chez moi, mais c'est sévère. J'ai pas d'idée. Qui a fait courir? Je suis sûr que j'en rentre en plus des trucs évidents, mais... Franck Lagorce. Non, je déconne. Lui, on le sait, c'est 3 qu'il en a fait. Non.
Oui, c'est pas beaucoup. Il en manque 150 pour franchir le cap, voilà, qui te permet de devenir un grand pilote.
C'est vrai, c'est clair, en fait, c'est le critère, c'est 153 Grand Prix pour entrer dans la légende.
Voilà. En dessous, t'es un naze.
T'es juste un pilote. T'es pas un grand...
Quand même. Moi, non. J'ai la liste. Non, quand même. Non, on peut pas dire ça.
Oui, parce qu'en plus, il y a 40 ans, il n'y avait pas beaucoup de Grand Prix par saison. Hein. C'est ça qu'il ne faut pas taper dans des noms trop vieux, parce que même s'il faisait une carrière un peu plus longue, il n'y a encore que non. Parce que
oui, les années 50. Non, parce qu'il débutait vieux.
Oui, aussi, mais...
Et puis il mourrait, oui, c'est vrai.
Mais aussi, il y a 60 ans, il y avait aussi beaucoup de courses hors championnat. Parfois, plus de courses hors championnat que de courses dans le championnat.
Oui, il y avait ça aussi. Non, du coup, il faut que je balance un nom. Je dirais... Allez, Nelson Piquet. Senior, pas junior.
C'est bien de préciser. Ah. Nelson Piquet senior...
Junior, sa carrière s'est terminée dans un mur, on le sait. Mais...
A parcouru 204 Grands Prix. Donc c'est une bonne réponse.
Ouais. Junior, il a dû en faire une trentaine.
Je vais partir sur Ayrton Senna.
Une petite idée du chiffre?
J'étais en train de calculer. Je pense qu'on doit être à 170 peut-être, en étant optimiste.
Et pas mal, on est à 161. C'est-à-dire qu'Ayrton Senna a disputé moins de Grand Prix que Jacques Villeneuve.
J'y pensais à Senna, ah oui, mais je me disais, il a commencé un peu après Prost et tout. Ouais. Donc, j'étais pas sûr. Et belle réponse.
Là, on est à 18 pilotes cités. Hein.
Oui. Et alors, ce que je peux vous dire, moitié, vu que vous avez chacun donné le même nombre de réponses, il n'y a plus de pilotes actuels.
Oui.
Enfin, en tout cas, plus de pilotes qui courent en ce moment en F1.
J'ai cru que t'allais dire il n'y a plus de pilotes champions du monde, j'ai eu très peur.
du coup, je vais rester dans ma logique et dire Fisichella, parce que lui, je crois qu'il a débuté une année avant Trulli. Donc, 96, par contre, lui, il a fini avant, il a fini en 2009, ça fait 14 ans, et donc, ça doit faire dans les 220, je dirais.
Il est à 229, il est 10e du classement, Fisichella.
Je vais dire Olivier Panis, mais c'est pas convaincu que je le dis.
Olivier Panis a disputé 158 Grand Prix. Ouais. Donc c'est bon.
Ah, il aurait dû arrêter 5 Grand Prix avant. Il aurait été le club.
Emerson Fittipaldi.
Emerson Fittipaldi a gagné 3 titres de champion du monde et a disputé 144 Grand Prix. C'est la première erreur, Quentin.
Oui, mais au moins, c'est un joli chiffre, alors je regrette pas cette erreur.
Ah non, c'est 44, le chiffre.
Oui, mais avec un 1 devant, c'est encore plus symbolique.
Faudrait un 3 devant, c'est plus d'actualité. Avec 3 titres.
Ah, oui.
Non, t'as oublié qu'il y avait Hamilton.
T'as oublié qu'Hamilton était triple champion du monde. Oui, oui. Ça me surprend pas.
J'ai cru que t'étais en train de dire qu'il allait terminer 3e du championnat.
Bilo.
Du coup, je vais dire Nick Heidfeld.
Oui, Nick Heidfeld, 183 Grands Prix, autant que Lewis Hamilton. Jusqu'à dimanche prochain.
Ah, Hamilton en juin.
Attends, Hamilton n'a pas pris le départ du Grand Prix.
Mais c'est quoi, ce pessimiste? C'est pessimiste.
Hamilton égale enfin Heidfeld. Là, il peut être considéré comme un champion. C'est le mec qui rendait Rosberg attractif lors de ses courses à la Rosberg.
Allez, ensuite.
Alors, je pensais en français, mais je suis quasiment sûr qu'il a moins de 153 Grand Prix. Pourtant, on le voit tous les week-ends de Grand Prix dans les stands.
Ah bah oui, c'est 6 le Grand Prix qui le fait.
Franck Montagny, il a fait 6 Grands Prix.
Oui. Ouais.
Non, je vais dire un autre Français, et je pense qu'il en a fait quelques-uns, et je dirais ici Jean-Pierre Beltoise. Non, il n'est pas dans les...
Ah, déjà, vous dites que s'il cherche, c'est que c'est mal.
Voilà, c'est mort.
Jean-Pierre Beltoise, il a disputé 85 Grands Prix. Il est 83e au classement.
Ah, je pensais qu'il avait au moins passé à barre des 100, mais...
Celle-là, faut que je la partage. C'est Fab qui dit « Anecdote ». Une fois en conférence de presse, des journalistes ont posé des questions à Nick Heidfeld. En réalité, ils étaient en train d'interviewer une bouteille d'eau. Ils s'en sont rendus compte quand Heidfeld est arrivé en s'excusant d'être en retard.
Ils ont commencé la conférence comme s'il était là, mais il n'était pas là.
Quentin.
Gerhard Berger.
Oui, une idée du chiffre.
Bah, à peu près comme Senna. Mais ça s'en sent
pas. Ouais, c'est pas.
Non, plus. Mais non, plus.
190 peut-être, 180, 190.
Il est à 210, ah, Gerhard Berger. Alors Fab qui précise, mais non, parce qu'il y en a qui se posent la question sur le chat, c'est faux. Ouais, il rappelle quand même. Hein.
Là, on sait que la blague a foiré quand même, si tu te sens obligé de préciser.
Non, mais il y a des gens qui se posaient la question si c'était vrai ou pas. Bilo.
Eh ben, tiens, pour continuer dans les pilotes très estimés dans le monde de la F1, on va parler de Ralf Schumacher. Donc, lui, c'est 97-2007. Donc, ça fait 11. Il a eu un petit... Alors, 11 fois... Putain... 20, 220, moins 20, sachant qu'il a eu un petit accident aussi. Je dirais dans les 200.
Il est à 180. Voilà. Mais c'est une bonne réponse. Bouchard.
Ah, je racle le fond, mais là, j'ai plus rien.
Le pire, c'est qu'il y a encore des noms. Enfin, oui, même tous les noms qu'il y a dans la liste sont connus, quoi.
Forcément, la plupart, c'est des vainqueurs de Grand Prix, de toute façon. Parce que pour rester autant à F1, t'es monté sur le podium au moins une fois, quoi, je pense. Alors, à part Hülkenberg qui lui reste longtemps, mais.
Et Hüttfeld.
Hüttfeld, il a fait des podiums, quand même.
Ouais.
Je vais dire. Parce que de toute façon, au pire, je finis sur une belle note. Mais je vais me voter Juan Pablo Montoya.
Montoya.
Donc, si tu cherches, c'est mort.
Si c'est que c'est mort, vous avez deviné.
Allez, vas-y, annonce. 70, 80.
Hey, 94 Grand Prix quand même, Juan Pablo Montoya.
Donc personne n'est surpris que je suis le premier à être éliminé.
Non.
Désolé, Bouchard. Quentin a une erreur. Et Milo, tu n'as pas eu d'erreur.
Bah là, encore, je cite des pilotes que j'ai vu rouler, donc là, je suis tranquille.
Milo, le seul concurrent... qui ne peut pas être surveillé par quelqu'un d'autre pour aller sur sa tête.
Ah oui, voilà, tout de suite. Je savais.
Quentin. Allez, Quentin.
Quentin, il va dire. Kovalainen. Oh là, Kovalainen, ouais.
Oh non.
Non, je sais que c'est non, mais je tente.
Même moi, je me suis abstenu de le dire, Kovalainen.
Kovalainen, il a débuté en 2007, c'est fini en 2012, ça fait 5-6 ans. Non, ça fait pas ces 5 ans.
Non, il est à 111, Kovalainen.
Oui, bah ça va, il y en a qui ont décidé des pilotes qui avaient que 80 Grand Prix. Hein.
Je t'emmerde.
Alors sinon, Bilo, est-ce que tu avais d'autres noms
Il reste combien?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Ah, ça va, il reste plus beaucoup. Alors, du coup, Panis, on l'a déjà cité.
Oui.
Ah, merde. J'avais qui? J'avais... Bert Mailander. Celui qui détenait le record il n'y a pas si longtemps.
Tout à fait, qui a longtemps gardé le record. Ricardo Patrese, 256 Grand Prix, qui est encore 5e du classement.
J'avais De Cesaris, à mon avis. Qui a
oui,
un record
13e. 208.
J'ai qui d'autre? J'ai un... Ça, c'est dans les évidents. Après, j'en ai pas d'autres évidents. Attends, je réfléchis. Johnny Herbert, je sais plus si ça a été cité. Je crois pas.
Non, ça n'a pas été cité. Il a disputé 161 Grand Prix, comme Senna et comme Hakkinen.
Après, j'aurais dit Graham Hill.
Eh oui, Graham Hill, il a eu une longue carrière, 175 Grands Prix. Il est 24e du classement. Il en a même encore, pour deux Grands Prix, plus que Vettel.
Peut-être Eddie Irvine.
Non, Irvine est à 146.
Ah, merde.
C'est pas loin, mais non.
Il reste combien, du coup?
4. Tu les as pas, de toute façon, t'as gagné.
Oui, mais j'aime gagner avec toi.
J'ai le droit de suggérer un nom?
Oui, t'as perdu. Vas-y. Donc.
Sir Jackie Stewart.
Eh bien, Sir Jackie Stewart, il a disputé 99 Grands Prix.
Oh, voilà, on mérite notre statut de perdant.
Est-ce qu'il reste des champions? Il reste des champions?
Non.
Il reste plus de champions, ça va être plus compliqué. Il reste des vainqueurs de Grands Prix?
Oui.
Oui. Vainqueur de Grands Prix? Frenzen.
Oui, il était à 156.
Après, question. Après, j'aurais pas dire. Non, franchement, après, j'ai plus d'idées. Je sais pas, je tente. Mais après, je connais pas beaucoup de pilotes en fait.
Je pense que c'est bon.
Ouais.
Alors, vous avez pas cité Alboreto, 194 Grand Prix. C'est plus que Mansell, par exemple.
Ouais.
Le Belge. Je vous dis le Belge.
Ben.
Non.
Jackie X.
Non.
Ah merde.
Thierry Boutsen.
Ah oui. Bah je pensais pas qu'il y en avait autant. J'aurais jamais.
163 Grand Prix. Et Martin Brundle, 158.
C'est que des mecs, je sais même pas à quoi ils ressemblent.
D'ailleurs, celui qu'il fallait.
Il y en a plus de 153 ou pas? Non.
On l'a
pas.
Ah non, il en est à... il s'est arrêté à 115.
Ok.
Mais moi, je savais qu'il n'était pas à 153.
Le plus piégeux, c'est John Watson parce qu'il est à 152. C'est celui qui est juste en dessous de la limite.
Enfin, c'est pas le pilote qu'on cite le plus souvent non plus. Donc...
Et ensuite, après, il y a Fred Zen qui était le dernier de la liste à 156.
Attends, Watson, c'est quand même le mec qui se paye le luxe de partir dernier pour finir premier. Le mec qui fait ça plusieurs fois, tranquille.
Eh ben, c'était pas mal. Je pensais pas que... Je pensais que ce serait beaucoup plus simple. Et finalement, il a fallu que vous cherchiez.
Non, que moi je cherche, ça t'a pas surpris quand même.
Ah non, c'était quand même des noms connus, enfin il n'y avait pas d'inconnus dans la liste. Hein.
Ah, disons que, oui, non, pas inconnus, mais genre Alboreto, vous savez, c'est pas évident, c'est pas des pilotes dont on parle quoi.
C'est vrai, c'est vrai. Mais si on arrive à la fin de l'émission,
ouais.
On vous rappelle comme d'habitude que le SAV de la F1, c'est sur iTunes, c'est sur Pod Radio, sur PodCloud, sur Facebook, sur Twitter, sur YouTube, sur Stand F1, sur Actu F1. Visiblement, ça fait des choses étranges chez Buchor. Enfin bon. Parce que la F1 sur Internet, c'est sûr.
SAVF1.fr.
C'est tellement plus synchro quand les gens sont de la même salle. Parce que le SAV de la F1, c'est...
Chez Buchor.
Bah oui, en ce moment, ouais.
En ce moment, ouais. Messieurs, on vous dit à tous bah, à la semaine prochaine, parce que ça enchaîne, là. Dès le week-end prochain, on va au Japon.
Oui.
Vous êtes content de devoir vous lever encore plus tôt, comme allez-y.
Génial, oui.
Allez-y, c'est l'horaire parfait, quand même. C'est un bon... Franchement, ça va, quoi.
Ouais, c'est cool, c'est cool.
Japon, ça pique un peu plus.
Allez, on vous remercie de nous avoir écoutés, que ce soit en direct ou en différé. On vous souhaite à tous une très bonne semaine. Et bah, tout simplement, à la semaine prochaine au Japon, à Suzuka. Ouais, Suzuka.
Eh oui, je suis content, ça, c'est mari de ces deux passions, le Japon et l'iPhone.
Eh oui.
Grand prix symbolique.
Ouais.
Et peut-être qu'enfin, Mercedes va avoir son titre constructeur.
Enfin. Comme ça.
Ce suspense est insoutenable.
Insoutenable.
Et peut-être qu'un pilote Mercedes va avoir son titre pilote des Suzuka.
Oula, là, ce serait compliqué.
Non, non, un accident grave suffit.
Oh, putain. Allez, ciao à tous.
Bonjour.
Bye bye.
Ciao.
Salut.